Alors bonsoir à toutes et à tous. On vit une période très très troublée. Difficile de comprendre exactement qu'est-ce que Hachem il attend de nous, parce que c'est tellement tellement énorme ce qui est en train de se passer. Le Shabbat dernier, j'étais à Toulouse. Donc dans cette école de Tzara Torah, on a fait un très grand Shabbat plein, Baruch Hashem, avec 160 jeunes. Et le samedi soir, j'ai parlé avec Jonathan Sandler pendant une heure. Et dimanche matin aussi, j'ai parlé avec des gens qui étaient sur place. Et après, dimanche après-midi, je suis parti à Marseille pour donner une conférence. Et lundi matin, j'étais en conférence aussi, dans une yeshiva. Et juste après, je reçois le coup de fil de la catastrophe. Donc depuis lundi, et après il y avait cours lundi soir, et lundi, mardi matin, mardi après-midi, mardi soir, et aussi jeudi soir. Et de tout, à chaque fois, les gens ils me demandent de parler de ça. Maintenant, c'est très compliqué. Je veux dire pourquoi, parce que malheureusement, le malheur, il est tellement énorme. Et j'avais l'intention d'annuler toutes les conférences de la semaine, parce que c'est difficile de voir quelqu'un la veille et le lendemain de l'imaginer mort. C'est très très dur. En plus des enfants. Donc je voulais annuler toutes les conférences. Mais après, j'ai dit, je pense que ça aussi, ça serait aller dans le sens du terroriste, de détruire et de créer la terreur. Au contraire, il faut que la simcha, elle soit plus forte que l'arma, que l'angoisse, pour lutter contre ça, pour détruire cette logique-là. Et cette logique, puisque ça s'est passé, on était dans Parashat Vayikra, et on a lu Parashat Para. Para, c'est les lois incompréhensibles, c'est les hokim de la Torah. Et Vayikra, c'est les korbanot. Là-bas, les commentaires, ils expliquent que pourquoi Hachem a demandé qu'on amène des korbanot. Le Ramban, il explique, il dit, normalement, un homme, il a fauté. C'est quoi la faute? C'est une distance qu'il a pris avec Hachem. Donc c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de se rapprocher d'Hachem. Ça s'appelle la teshuva. La shuv, ça veut dire se repentir, et ça veut dire aussi revenir. Quelqu'un, il s'éloigne, alors il se rapproche. Maintenant, normalement, quelqu'un, il doit faire ça tout seul, avec sa tête, avec son cœur, et réfléchir et faire teshuva. Il dit, malheureusement, des fois, quelqu'un, il n'arrive pas. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, amène un korban. C'est quoi un korban? Tu prends l'animal, et tu dois imaginer que ce qu'on fait à l'animal, on aurait dû te le faire à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la shrita. Oui, on égorge l'animal, il y a le sang qui coule. Après, on enlève la peau. Après, on coupe en morceaux. Après, on enlève les graisses. On le met à brûler sur le misbéach. La shrita, ça, c'est la mort. La mort, c'est aussi la vera, parce que la vera est considérée comme la mort. Maintenant, quand l'animal est égorgé, le sang coule. Qu'Adam ou un nefesh. Le nefesh, c'est le nefesh de la ta'ava. C'est ce qui amène vers les pulsions, de se conduire comme un imbécile, de ne pas réfléchir. C'est une forme de mort aussi. D'être un rachat, c'est aussi une forme de bêtise. Après, on enlève la peau. La peau, c'est quoi? C'est quelqu'un, pour faire des avérotes, malheureusement, il est obligé d'enlever sa dignité. Tu te conduis pas comme une bat Israël. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu couches avec des mecs, alors que ta mère, c'était la tzadéquette de Meknès. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fumes des joints comme un animal. Tu te traînes comme des beurs des cités. Tu parles comme eux, tu traînes comme eux. Alors que ton grand-père, il connaissait le chasse. C'est pas normal. Et même si ton grand-père n'était pas religieux, tu aurais honte de le faire devant lui. Ça veut dire que tu as détruit ta dignité, ça, tu enlèves la peau. Après, tu te coupes en morceaux, parce que quand quelqu'un fait tchouva, il doit se casser à l'intérieur. Casser le mauvais pour faire apparaître le bon. Comme on casse l'écorce, on fait apparaître le tronc. Après, il faut enlever les graisses, parce que la Gemara, elle dit que les gens ne font pas tchouva, parce que chélev al kessilam, ils ont une graisse sur le cœur qui les empêche. Au fur et à mesure qu'on faute, on croit qu'on faute. Alors, on dit, avant, j'étais timide, après, maintenant, j'arrive à draguer, j'arrive à délirer, j'arrive à boire un litre de vodka sans me saouler. C'est normal. L'alcool ne soue que les gens qui ont un cerveau, les gens qui n'en ont plus. Ça ne les dérange pas. Donc c'est quoi l'idée? Que quelqu'un, il comprend tout ça, il se remet en cause en regardant l'animal. Il voit ce qu'on fait à l'animal, il dit en vérité, c'est moi l'animal. Et pourquoi c'est lui l'animal? Parce que le anis, c'est la personne, et le mal, c'est l'yetzerara. Quand quelqu'un, il annule, il assimile le anis avec le mal, ça fait animal. Ouais. Toi-même, tu regardes, tu ressens, c'est ton copain, vous faites des maths ensemble et tout, et un jour, tu dis, c'est marrant, il me regarde comme un shawarma. T'as compris ce qui s'est passé? Ouais, il est devenu un animal. Lui aussi, il était sérieux, sadique, sympathique et tout. Après, ils vont passer les vacances à Natania. Son copain, il lui dit, tiens, j'ai trouvé une carte, je crois pas que c'est une carte de visite, ou alors c'est pour des secrétaires qui ont certains types de services qui sont pas autorisés par la loi. Et il part dans la pourriture, il part dans la touma. Je suis obligé un peu de parler clairement, parce que des fois, les allusions, les gens ne comprennent pas. Et comme on est entre gens sérieux, au pire, vous comprenez. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est très, très important. Parce que malheureusement, Donc le Ramban, il a dit que Hachem, il a donné le Corban, pourquoi ? Que quand la personne, elle n'arrive pas à être mitorérée d'elle-même, elle n'arrive pas à se réveiller d'elle-même, on lui montre quelque chose qui la réveille. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que c'est les gens qui sont arrivés... Moi, je lui dis, j'ai parlé pendant une heure avec lui, ce monsieur Sandler, il ne m'a pas dit un mot de lui. Comment on peut aider les gens ? Comment améliorer la communauté ? Il donne des cours à Bordeaux, qu'est-ce que je peux faire ? Je donne des cours en classe, comment je peux améliorer ? Un tzadik. Il ne m'a pas parlé un mot de et mes problèmes, et mes intérêts, mon argent, et mon avenir. Les enfants de 5 ans, de 4 ans, des tzadikim. Une petite fille comme ça, une tzadikette. On était à table, Shabbat, et il n'y avait pas de place pour s'asseoir, parce qu'ils avaient prévu pour 80 personnes, il y avait 160. Alors le rabbi Yaakov, il s'est assis à côté de moi, le rabbi Monsenego, et il y avait la petite fille, elle tournait. Alors je lui dis, viens, on lui fait une place à côté de nous. Il m'a dit, non, va s'asseoir à côté de sa mère. Elle a du mal à trouver sa place. Elle ne trouvait pas sa place. Ça veut dire qu'Hachem, il envoie des chocs comme ça. Je l'ai dit 2 minutes avant le cours. Oui. Les chocs, ils sont plus importants pour l'effet qu'ils produisent, oui, que pour eux-mêmes. Maintenant, on peut faire comme les goyims, et pourquoi ? Et on va se venger, on va leur faire payer. Il y a déjà tellement de brels. Pourquoi tu veux t'appeler Jacques ? D'accord ? Ça n'a pas d'intérêt. Nous, on sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il envoie des messages. Il envoie des messages. Chacun doit réfléchir, chacun doit savoir. La Neshama elle-même, elle sait pourquoi elle est venue. Nous, on fait une erreur. C'est de croire que les gens, en vérité, ils devraient tous mourir à 120 ans. Tu sais, quand quelqu'un il a 20 ans, tu lui dis jusqu'à 120 ans. L'anniversaire de ses 50 ans, tu lui dis jusqu'à 120 ans. Quand il a 100 ans, tu lui dis jusqu'à 120 ans. Mais quand il a 120 ans, tu lui dis à ce soir. C'est compliqué, ouais. Mais en vérité, tout le monde meurt le jour de sa mort. Maintenant, nous, on souhaite la longue vie, ouais. Mais il faut savoir que le jour de la mort, il est déterminé le jour de la naissance. Le jour de la mort, il est déterminé le jour de la naissance. Donc ça veut dire que la personne, elle va mourir le jour de sa mort. Maintenant, les circonstances de la mort, oui, la manière dont la personne va mourir, après les personnes qui vont être touchées, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a pas de hasard. Jamais. La Gemara, elle dit, si un homme il a tué, il a tué. Maintenant, il est condamné à mort. Alors la Gemara, elle dit, mais d'accord, lui, il doit mourir. Mais pourquoi sa femme, elle est veuve ? Et pourquoi ses enfants, ils sont orphelins ? La Gemara, elle dit, il n'y a pas d'erreur. Cette femme-là, peut-être dans un autre Gilgoul, elle-même, elle a tué quelqu'un, donc elle a fait ressentir à quelqu'un la douleur du veuvage. Alors aujourd'hui, elle va ressentir qu'est-ce que c'est le veuvage. Celui-là, il est orphelin, t'en fais pas, il n'y a pas d'erreur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit avoir cette émouna-là. Maintenant, quelqu'un va dire c'est difficile, parce qu'il y a la souffrance, il y a la révolte. Une fois, j'étais à Strasbourg, j'ai fait une conférence. Juste après la conférence, il y a une femme qui est venue, elle m'a dit « Ah ben, Chetrit, c'est pas normal, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi ça m'arrive ?» Je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame ? Elle me dit, j'ai un enfant handicapé. Je vois, elle était vraiment choquée, elle était troublée. Je lui dis, madame, mais ça fait combien de temps que vous... Ça fait une semaine, ça fait 2 semaines ? Elle me dit, non, ça fait 13 ans. Je dis, 13 ans ? Elle me dit, non. Et la blessure, elle était encore fraîche. Ouais. Ma sœur, il y a 13 ans, elle a mis au monde un enfant trisomique. Ouais. Dès que l'enfant, il est né, c'était un choc, c'était difficile. Il y a des rabbanim, ils sont venus la voir, à Samuel, des rabbanim de Bnei Brak, parce qu'elle est à Bnei Brak. Ils lui ont parlé, ils lui ont expliqué. Hachem, il met des grandes déchamottes dans des corps qui ne peuvent pas les abîmer. Oui. Elle a accepté. Elle a bien pris. Oui. Elle a bien accepté. Cet enfant, il amène une lumière dans la maison qui est incroyable. Qui est incroyable. Il a une kedusha, mais incroyable. J'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, je côtoie beaucoup de monde. Hein. Il pense qu'au mitzvot, qu'à la Torah. Je sais pas, il n'a pas appris. C'est un trisomique. Il va dans une école spécialisée. Dès qu'il rentre, il met son chapeau, il va à la yeshiva juste en face, il prend son Mishnah Brura, il sait pas lire, hein, il prend le Mishnah Brura, il écrit, il remplit le cahier, Shabbat, il fait les drachot, Arav, Arav, Dvar Torah, Arav, Arav, Shirim, Shirim, il voit quelque chose, Sniout, ah, Zelo Sniout, c'est pas possible. C'est une Neshama sans cerveau. Alors les gens ils se moquent, ils disent mais c'est un trisomique, c'est vrai. Mais toi, t'as une Neshama et t'as un cerveau, mais t'as vu les lourdeurs que tu fais ? Je crois que c'est toi le Mongol. Je crois que c'est toi le Mongol. Je crois pas, j'ai dit fin de Dvar Torah, oh, tu me saoules. Bon, mais les téfilines, oh, j'ai pas la tête. Je crois pas, lui, il a pas de mitzvah. Tous les matins, il a des téfilines qui sont pas cachées. Mais tous les matins, comment il tenait à faire sa bar mitzvah et comment il te... C'est incroyable. Ça veut dire la neshama sans cerveau. Donc en fin de compte, des fois, le cerveau, il fait écran devant la neshama. Il laisse pas la neshama parler. Comme des enfants, des fois, qui se révoltent, laisse-moi tranquille avec la Torah, laisse-moi tranquille et tout. Et les parents, ils viennent en pleurs. Je dis, n'ayez pas peur, vous allez voir qu'avec ses copains, qui sont des païens, il leur dit, tu manges pas cachère. Il dit aux filles, tu couches avec les mecs. Le même qui te dit à toi, laisse-moi tranquille avec ta religion. Aux autres, oui. Ça veut dire que si le fond est bon, il a été créé, conçu dans l'amour. Il a quand même été dans une école juive. Donc il a quelque chose à l'intérieur. Maintenant, il veut délirer. C'est l'âge aujourd'hui de croire que je vais être plus goy que le goy. Genre, c'est une mitzvah. Ouais, mais ça n'a pas d'intérêt. Il dit, quelqu'un, il fait le contraire. Qu'il a compris. Et c'est ça la puissance. Et c'est ce que j'ai dit à cette femme. J'ai dit, madame, la plaie, c'est une blessure. Si vous l'acceptez, elle s'apaise. Si vous vous révoltez, elle putréfie. Celle-là, en 13 ans, elle n'a pas réglé son problème. Elle n'a pas fait encore le deuil d'accepter l'handicapé. Et l'autre, en une heure, elle a accepté. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'elle dit, la Gemara, « Keshem shemevarechim ala tova, kach mevarechim ala ra'a. » De la même manière qu'on doit bénir le bien, on doit bénir le mal. Vous savez que la vie d'un juif, c'est un paradoxe. C'est très compliqué. Parce que si quelqu'un, Chas v'Shalom, il a perdu son père, alors il doit dire à Bracha, Baruch, Dayan, Haemet. Ouais. Qu'il soit béni le juge de vérité. C'est-à-dire que tu acceptes la xéra que Dieu a envoyée. Mais si de ce même père, il a touché 13 millions d'euros en héritage, il doit dire Shehianou, Vekiemanou, Vegianou, Lazemanazé. Comment il va faire? Vous comprenez ou non? D'un côté, il a une amma, il s'étouffe, il dit mon père, il est mort. D'un autre côté, il se dit objectivement, j'ai pris 13 millions. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est compliqué. Hachem, il aime les paradoxes. Moi, il y a 3 ans, j'ai perdu mon père, Zichrono Livracha. Il est niftar, oui, 8 jours. 8 jours exacts, 8 jours après la naissance de mon petit-fils, qui est son arrière-petit-fils. Donc on a fait la Brit Mila le jour de l'enterrement. Donc moi, j'étais à Ashdod en train d'enterrer mon père, et ma femme, elle était avec ma fille à la Brit Mila à la maison, à Paris. Je sais pas si vous... Mais à la même heure! La même heure, ça veut dire que j'étais à la montre, elle m'a téléphoné, je lui ai dit on va commencer l'expédie, elle m'a dit on fait la Mila. Alors, moi j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Je dois être joyeux ou je dois être angoissé? C'est compliqué l'histoire. Après, je me suis rappelé que mon père, Zichron Ibracha, quand il avait 14 ans, il était dans la Khevra Kadisha en Algérie. Alors lui, il a côtoyé les morts très très jeune. Il n'avait pas peur de la mort. Même une fois, on était en train de s'affoler, il était dans les derniers jours. On lui a dit, papa, mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Il a dit, qu'est-ce que je sens? Je sens que je vais mourir. Mais avec un aplomb comme ça. Il m'avait dit des fois, il me dit, Ria, la vie et la mort, c'est pareil. Maintenant, nous, on dit, Chas v'Shalom, Sim Silenou, Lorarinou. C'est vrai. Et d'un autre côté, on dit, oh, Hashem, oh, Hashem. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que toi, tu kiffes trop la vie, ouais, et t'as trop peur de la mort. C'est pas normal. Parce que la vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Des fois, tu vas le matin à une Brit Mila, et l'après-midi à l'enterrement. C'est compliqué. Et le soir, un mariage. En plus, tu dois parler 3 fois. Tu dis qu'il ne faut pas se tromper de discours. Ouais. En plus, moi, comme il vous l'a dit mon ami Ilan, j'ai beaucoup de mal à parler. Des fois, il m'amène dans des spédis, même les endeuillés, ils rigolent. Je dis, j'arrive pas à mettre l'arma, j'arrive pas. Je suis programmé, Simcha, je suis pas programmé, je suis pas formaté. Il y a des gens, au contraire, ils veulent faire des blagues, t'as envie de mourir. Mais j'arrive pas. Mais c'est quoi l'idée? Et c'est très important. C'est quoi? Keshem shemevarechim ala tova, kar mevarechim ala ra'a. Hashem, il veut qu'on dise Baruch Hashem pour le bien, il veut qu'on dise Baruch Hashem pour le mal. Mais est-ce qu'on est des mazos de dire Baruch Hashem pour le mal? C'est impossible. Alors je vous dis le secret. C'est très intéressant, mais il faut se concentrer en un seul mot pour essayer de le comprendre. Il y a l'extérieur des choses et il y a l'intérieur des choses. Des fois, l'extérieur des choses, il est magnifique. Des fois, à l'extérieur des choses, il est horrible. Ouais. Mais nous, on a la Emouna. Kol David Rahamana l'Etav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du bien dans le bien. Et on sait qu'il y a du bien dans le mal. Maintenant, celui qui n'arrive pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, il devient fou. Maintenant, les enfants, normalement, ils voient l'extérieur des choses. Les adultes, ils voient l'intérieur des choses. Maintenant, c'est une grande tentation, à n'importe quel âge de la vie, de se remettre dans la position de l'enfant. Ça va? Comme ton père il est dur, révise tes maths, ouvre ta Mishnah, où tu vas ce soir, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu traînes, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est la cigarette à la cerise. Je crois plutôt que tu as voulu créer le lien avec celui avec qui tu n'as pas trouvé le joint. Les enfants nous prennent pour des imbéciles. C'est Mida Kenegen Mida. Nous aussi, on a essayé d'embrouiller nos parents. Alors eux aussi, ils essaient de nous embrouiller. Mais c'est quoi l'idée? Non, aujourd'hui, c'est une maladie dans la jeunesse de mentir. Mais mentir comme la respiration. Pour rien, comme ça. genre où t'étais. Il n'y a jamais de devoir. C'est des écoles un peu spéciales. Il n'y a jamais de devoir. Je sais pas. C'est une autre génération. Ils doivent leur mettre des implants ou là des. Je sais pas. Ils n'ont pas de devoir. C'est comme ça, ouais. Le prof, il n'est pas là, ouais. Non, aujourd'hui, on a rien fait. On a. Tous les jours. C'est un truc. Tu te demandes comment il a eu le bac. Il a dû glisser dans un bac. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très important. C'est qu'une personne, elle fait cet effort-là de dire, il y a du bien dans le bien, il y a du bien dans le mal. Non, c'est quoi la bracha? Nous, on croit que la bracha, c'est une prononciation. Baruch, Ata, Hashem, c'est une proclamation, c'est une louange. Non, la bracha, c'est un décapsuleur, oui, c'est un déclencheur. Quand tu dis la bracha, c'est un esprit qui va débloquer les choses. Par exemple, c'est comme si la clim, elle est là, et toi, tu as la télécommande. Maintenant, tu appuies sur un bouton. Alors, il y a une onde électrique comme ça qui va à l'intérieur du plastique, qui va à l'intérieur du boîtier, qui va à l'intérieur de l'électronique et qui déclenche une impulsion qui démarre la clim. Mais toi, tu n'as rien touché, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Alors, c'est pareil. La bracha, c'est quoi? Il y a un potentiel positif là-dedans. Maintenant, quand toi, tu crois à ça, tu crées un lien entre ta volonté et le potentiel, et le potentiel, il va se déclencher. Cet enfant, il t'a déçu, mais toi, tu crois en lui. Il va donner le meilleur de lui-même. Ouais. Maintenant, ce magasin, tu le regardes bien, ou tu le regardes noir, il est mal placé, il est sombre, les produits sont bidons, il y a la concurrence. Toi, tu le vois noir, il est noir. C'est quoi les varères? C'est quoi bénir? Bénir, c'est chercher le bien qu'il y a dans le mal. Tu bénis le bien qu'il y a dans le mal. Donc, comme tu bénis le bien qu'il y a dans le bien qui est dans le mal se réalise. Parce que tu lui donnes sa possibilité de sortir. Tu dis, je sais qu'Hachem a fait ça pour le bien. J'ai raté l'avion, mais c'est pas pour rien. Et là, tu rencontres quelqu'un et tu te maries. Tu l'avais pas raté, chalet pour toi. Ouais. Chaque situation, elle a du bien. Maintenant, sachez que quand je bénis le bien qu'il y a dans le bien se réalise. Vous êtes venu pour l'Ilo Nishmat du Niftar? C'est dommage. Il vaut mieux regarder un match. Non, si vous êtes venu pour lui, posez vos téléphones. Sinon, vous allez attraper l'arthrophone. C'est une maladie des doigts comme ça. Les gens qui ont l'arthrite parce qu'ils tiennent toujours l'iPhone. C'est une arthrite spéciale du iPhone. Donc, non, éteignez les portables, c'est bien. Et concentrez-vous, parce que moi, je suis venu que pour vous. Je pouvais rester chez moi. J'ai fait cours hier soir, j'ai fait cours avant-hier soir. Hier soir, j'étais à Paris. Avant-hier, j'étais à Londres. Dimanche, j'étais à Marseille. Demain, je suis à Montréal. Donc, j'aurais pu rester chez moi. Mais je suis venu pour vous. Alors, ne jouez pas avec votre téléphone. Pas pour moi, pour eux. C'est dommage. Donc c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est qu'il y a du bien dans le bien et il y a du bien dans le mal. Maintenant, si moi je veux faire sortir le bien qui est dans le mal, je dois bénir le bien qui est dans le mal. C'est dur, c'est très dur. Ouais. Maintenant, je ne le vois pas parce que l'extérieur est mauvais. Donc je suis obligé d'y croire. Ça s'appelle la émouna. La émouna, c'est de bénir ce que je ne vois pas. Le couple, il est un peu zarbi en ce moment, d'accord? C'est un peu fatigué, c'est un peu truc. Je dis, c'est pas grave. Je vais continuer à t'aimer, je vais t'encourager, on va réussir. Non, 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 je suis très déçu. T'as maigri, t'as grossi. Ouais. Tu es radin, tu es truc. Toi, tu vois l'extérieur des choses. Tu bénis pas l'intérieur. Le problème, c'est que quand on ne bénit pas le bien qu'il y a dans le mal, on bénit le mal. Et le mal qui est béni, il se développe. Donc l'autre, au bout de 13 ans, elle a toujours pas fait son deuil. Parce qu'elle bénit le mal. Parce qu'elle n'arrive pas à accepter. Maintenant, les gens, ils croient que accepter, c'est renoncer. Au contraire, accepter, c'est avancer. Il y a des gens, après Auschwitz, ils ont créé une famille. Il y en a, après avoir raté le permis, ils sont rentrés en dépression. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puisque les gens ne vivent pas les choses de la même manière. Alors, je vous donne le secret, et c'est très important. Les événements, qu'on les accepte ou non, sont mina shamayim. Ça va? Les événements sont mina shamayim. Maintenant, on ne comprend pas, c'est incroyable, c'est pas grave, de toute façon, on ne comprend pas grand-chose. Quelqu'un m'a dit une fois, je ne comprends pas Dieu. Je lui ai dit, essaie de comprendre ta femme déjà. J'exagère, la réalité est bien pire, d'accord? Mais c'est très très compliqué de comprendre l'autre. Alors toi, tu t'étonnes que tu ne comprends pas Dieu, ouais? Ou alors les gens, ils rentrent dans cette maladie. Ils demandent, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? En hébreu, pourquoi c'est lama? Lama zekacha, lama zekacha, lama zemagia, lama zekore. Toujours on demande lama, lama. C'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle Serge, c'est très connu. Et c'est des gens, un matin, ils se lèvent et ils se mettent à crier « Je suis ». Voilà. C'est le syndrome de Serge Lama, c'est très très connu. Il n'y a pas de lama. Il n'y a pas. L'année dernière, j'ai eu un problème dans la famille très grave. J'ai été voir un rave, un grand sadi. Je lui ai dit lama. Et c'est exactement la même période que Marrakech, quand il y a eu l'attentat. Et c'était ça se passait au Maroc, mon malheur à moi. Je lui ai dit, lama zé koré. Il m'a dit, Shamatal Marrakech, t'as entendu ce qui s'est passé à Marrakech? Je dis oui. Il m'a dit Zegzera. Je dis oui. Il m'a dit Gam Zegzera. Maintenant, tu peux te révolter. Mais non seulement ça ne change rien, mais en plus ça augmente ta douleur. Pourquoi? Parce que des fois, on croit que renoncer à la révolte, oui, on croit qu'au contraire, on croit que d'accepter, c'est trahir la mémoire. C'est l'inverse. La personne, elle est partie. Maintenant, elle est dans le monde de la vérité. Ta souffrance, elle l'empêche de profiter de ce monde. Moi, mon grand-père, quand il est niftar, c'est un grand sadique, il est niftar. Alors, tous les soirs, tous les jours, ma grand-mère, elle allait sur la tombe, tous les jours en train de pleurer. Il est venu en rêve, il lui dit, arrête de pleurer, à cause de toi, ils me font souffrir dans ce monde, comment ça se fait que je génère de la souffrance dans le monde? C'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'événement est mené à Shamaïm. Mais l'impact de l'événement, c'est moi qui décide. Vous me suivez ou non? Je peux partir comme un morceau de chiffon dans un tsunami. Ou je peux rester comme une barre de tungstène. C'est moi qui décide. L'impact de l'événement, c'est moi qui décide. Ah, maintenant, si moi je veux rentrer dans la logique de la victimisation, qui est légitime, vous voyez? C'est pour ça qu'on a donné le deuil. Pourquoi la Torah elle a donné le deuil? Pourquoi elle a dit pendant 7 jours, ouais, et vas-y, pleure que tu pleures. Et après pendant un mois, et après pendant un an. En vérité, c'est la thérapie. C'est pour te réconcilier avec l'absence physique. Mais jamais tu t'es séparé de la personne elle-même. Quand tu rentres à la maison, par exemple, tu rentres à la maison, il y a ton mari, il est là. Tu l'as pas vu encore, mais tu sais qu'il est là. Quand vous rentrez dans l'ascenseur avec quelqu'un de nerveux, vous sentez. Quand vous êtes à table avec quelqu'un qui ne vous aime pas, une belle-mère ou... Ouais. Non, c'est pas dans tous les cas, mais il y a des exceptions, mais enfin, elles ne font pas la règle. D'accord. Donc, tu sens que la personne, elle ne t'aime pas. Pourtant, elle n'a rien dit, comme ça. Tu sens les couteaux qui... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% de la personne qui est en face de nous, c'est spirituel. 5%, c'est physique. Donc maintenant, toi, tu dois te réconcilier avec la personne spirituelle. Celle que tu as côtoyée, celle que tu as aimée, celle avec qui tu as partagé. Oui. Si toi, tu détruis la personne spirituelle, le lien avec la personne spirituelle, à cause que le lien physique a disparu, tu ne peux pas prendre le deuil. Alors ça restera tout le temps une frustration. Ça restera une souffrance. Comme quelqu'un, il a raté le bac. Eh bien, c'est pas grave, on fait autre chose. Non, c'est trop. Jamais. Ouais, c'est... D'accord. Bon, l'autre, il voulait faire ingénieur. Bon, voilà. Et l'autre, moi, j'ai des gens, ils m'appellent. Ils m'ont dit, Ravichia, mon fils, il a fait 2 ans de prépa. Il a redoublé la prépa. Ça nous a coûté 48 000 euros. Il a bossé du matin au soir. À 5h15 du matin, il mettait les définines. Jusqu'à minuit, en train de bosser. Pas de sortie en boîte. Pas de copine. Pas de vitamines. Rien. Il a travaillé. Il a, sur 7000 personnes, je sais pas quoi, qui ont passé l'examen d'entrée de je sais pas quoi, il a eu 13,8, il faut avoir 14. Il m'a dit, il veut se pendre. Il veut se pendre qu'il a raté. Il veut se pendre que ses parents, ils ont payé 48 000 euros. Il veut se pendre qu'il a rien, parce que la prépa, c'est rien. C'est pas qu'il est dans la chaussée, il est en prépa. Vous comprenez? Ouais. Prépa, c'est quoi prépa? Ça veut dire le sentiment de que t'es pas prêt. C'est ça. T'es pas prêt, tu vas en prépa. Ouais. Avant, il n'y avait pas les prépas. Les gens, ils passaient le bac, ils rentraient à HEC. Maintenant, ils font de la prépa parce qu'ils ne se sentent pas prêts. C'est normal qu'ils ne se sentent pas prêts. Puis ça fait 4 ans qu'ils glandent. Depuis le CM2, il a pas ouvert un livre. Ouais. Mais si quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens, un copain, moi, je me rappelle. Pourtant, il était à l'école Goy. Hein. En seconde, il a fait maths sup. Et en première, il a fait maths P. Et en terminale, il s'est fait les ongles. Tu dis, ah, c'est pas possible. Moi, j'arrive même pas à gérer mon flipper et mon scooter et ma HP. Et tu me demandes en plus de travailler. Il faut travailler. La génération des chalalas, c'est un vrai problème. Non, à l'époque, quelqu'un voulait être dentiste. Maintenant, ils veulent vendeur de téléphone. niveau ambition, c'est magenta. C'est... Ou alors du CO2, manque pas d'air. Si tu veux pas être Talmid Chacham, tu dois être au moins ingénieur. Au moins dentiste. Au moins avocat. Au moins. Si tu peux être avocat et Talmid Chacham, c'est encore mieux. Même un petit glandeur qui vend des iPhones pour gagner 100 euros, il y a déjà les beurres pour faire ça, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de rajouter des beurres. Ah, tu veux le beurre et l'argent du beurre? C'est très important. Il faut qu'ils aient de l'ambition. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Attendez-vous, le pire est à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voit, moi je voyage beaucoup. En Belgique, c'est mort. En Italie, c'est mort. En Espagne, c'est mort. Ouais. En province, il y a beaucoup d'endroits, c'est mort. Nous, à Paris, on a la cacheroute, on a les rabbinim, on a les écoles juives, on a des conférences, vas-y voisin, voilà, on a tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a encore des gens qui ne mangent pas cachère. Il y a encore des gens qui ne font pas Shabbat. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un, je dis, pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Il m'a dit, ça tombe samedi. Je lui ai dit, tu manges pas cachère. Il m'a dit, j'habite à Saint-Paul, c'est pas évident. Non, mais je rigole avec vous. Mais moi, j'entends des choses. Mais des choses. Tu es marié. Tu es beau gosse. Tu as 150 magasins. Le mec, bracha, il a 150 magasins. Ça va pour lui, non? Il a une femme, c'est une ancienne mannequin. Voilà, Bebon. Ouais, celle que tu rêves, c'est... Ouais. Il a épousé. Il a 3 enfants magnifiques. Il a 7 appartements. Il a 2 comptes en banque, sans compter ceux qui sont... Il a été trompé sa femme avec sa chef des stocks. Mais il m'a dit, Ria, il faut que tu vois la photo. Il m'a sorti. Elle était tellement vieille, je croyais que c'était une feuille fripée. Je dis, mais comment t'as fait ça? 62 ans ou la 59 hors taxe. Je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est ce qu'il m'a dit. Non mais écoutez, hein, écoutez ce qu'il m'a dit. Non mais c'est incroyable. Moi j'ai pas la télé. Vous voyez des horreurs, mais moi je les ai au téléphone. D'accord. Il m'a dit Rabbi Yahya, vous n'avez pas goûté le goût du sordide. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quand les gens ils ont le mal, ils cherchent le meilleur. Mais quand ils ont le meilleur, ils cherchent le pire. Mais t'es malade. Mais t'as tout. C'est bizarre, non? C'est compris, non? Il va aller chercher la pourriture. Mais quelle pourriture? C'est bizarre, non? Quand il vient, Ramesh Chitri, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, on a tout fait, on a tout truqué, tout ça. Il dit, mais elle n'est pas vraiment juive. Je dis, quoi, elle n'est pas juive? Il dit, mais c'est sa mère qui est goya, c'est son père. Il me dit, c'est compliqué, c'est... la mère, on ne sait pas exactement, parce que truc, il y a des Yougoslaves, est mélangé. Et le père, j'ai la moitié juive, à moitié goya, elle est comment? Il me dit, je sais pas. Il me dit, mais comment elle est moitié? Je dis, elle est moitié comme ça, moitié comme ça. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Bah, tu fais une croix dessus comme moi. Avec toutes les feuches qu'il y a, toutes les mignonnes et toutes les halouas, il a été me chercher une très louette de. Comment tu vas la cachériser à l'eau bouillante? Je sais pas pourquoi les gens ils vont chercher le tralouen. Et 4 ans et demi, 6 ans et demi, j'ai essayé de la convertir. Mais elles sont là, elles sont toutes mignonnes, toutes bronzées, toutes... elles t'attendent. Voilà. Et il y a Myriam, il y a Jennifer. Bon, non, ça. Il y en a, il m'a dit, les filles de la communauté, elles sont trop typées. J'ai quoi, elles sont trop juives, j'ai pas compris. Alors c'est compliqué, ça y est, c'est rare. Oui. C'est comme des fois des religieuses, il me dit, moi je veux quelqu'un, mais. Je veux quelqu'un d'ouvert. Ah, vous voulez un non religieux. Elle me dit non, Hazve Shalom. Ah, je dis, alors vous voulez un non religieux, religieux. Elle me dit c'est ça. J'ai l'autre. L'autre, mais elle est en mini jupe comme ça. Elle a un décolleté, c'est une marque connue, ça s'appelle Servez-vous. D'accord. Elle me dit moi, je veux un garçon qui a des valeurs, qui est fondamental, qui a des principes, qui est accroché à sa judéité. Je dis alors vous voulez un religieux. Elle me dit non. Alors celle-là, elle veut un non-religieux, religieux. Et celle-là, elle veut un religieux, non-religieux. Comprenez ou non? Je dis, il faudrait peut-être se remettre un peu dans les pompes. Vois-tu? Pourquoi le bon Dieu t'a fait naître dans une famille de religieux? Alors le Yitzhara du religieux, de ne pas être religieux. Ouais. Alors celui-là, maintenant, il veut absolument mettre des jeans. Après, il te dit, et il faut que j'ai une copine. Mais je la touche pas. Ils ont créé une torture que les nazis n'avaient pas imaginée. Ça s'appelle Shomer Negia. Genre, ils sont comme ça tous les deux. Il va mourir. Il a 16 ans et demi. Il va se marier à 23 ans. Il va devenir en bois. Ça fait du bien de rire. Ça soigne. Ça, c'est le... Alors, le religieux, il veut pas être religieux. L'autre côté, ouais, le non-religieux veut être religieux. L'autre, elle l'a élevé. Pathos. Quenelle de cheval. Première communion. Complètement en Bretagne, là-bas. Les vacances à Kerberec. Et l'enfant, maintenant, 16 ans et demi, d'un seul coup, il veut se laisser pousser la barbe. Il étudie de la chassidoute en cachette sur Internet. Il écoute les cours de Ron Chaya. Après, il s'achète un béret, il se laisse pousser la barbe, il veut faire la révolution, il se met à étudier le Talmud, on l'appelle Anche Gemara. D'accord ? Et le père, il m'appelle, il me dit, monsieur, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cet enfant que j'ai élevé dans la pure tradition catholique, comme ça, il me dit. Regardez comment il est devenu. Écoutez, moi, en tant que rabbin, j'ai une seule chose à vous dire, quand il vous arrive un malheur comme ça, je dis, vérifiez les mezouzot. Il m'a dit, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est que j'en ai pas. Eh oui, la double peine, ça s'appelle. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est toujours le principe du paradoxe. Vous comprenez ou non? C'est comme des gens, ils me disent, mais je comprends pas. Ah, mais Fitrit, mon fils. Mais qu'est-ce que ça dit? Comment il était à la synagogue? Il a fait la haftara à 4 ans et demi. C'est lui qui donnait le cours au prof du Talmud Torah à 13 ans. À 13 ans et 2 jours, il a craqué. C'est bizarre, les enfants, comment ils... Il tourne, on dirait du lait. Ah ouais, c'est pareil. Là, cette fille-là, oh, Myriam, t'as connu Myriam? Oh, qu'est-ce que ça dit? L'homme. Alors, elle est partie avec un arabe. Hein? C'est elle qui disait à ses copines, Chas v'shalom, mais tu parles à un goy, mais comment tu tends la main? Mais c'est un sourd. C'était pas intégré. C'est pas 100%. Et ça, il a dit, je vais lui faire une tentation à celle-là. Un Mohammed, mais gentil. Ouah, le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, il est tombé dans un chameau. Ouais. Elle dit, mais comment il a des midotes, et comment il est gentil, et comment il est prévenant, et comment. C'est vrai qu'il pleure tout le temps, parce qu'il se lamente, c'est normal, l'islamiste, il se lamente. Mais d'un autre côté, vous savez pourquoi est-ce qu'elle a tendu vers l'islam? Parce qu'elle n'était pas au courant. Est-ce que toi... Chut. Ah, il y a un temps de réaction quand même. Hein. On sent que le shit a fait de l'effet. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... On a des enfants extraordinaires. On a un peuple extraordinaire. On a une Torah extraordinaire. Mais il faut être cohérent. Une fois, c'était à Milan. Moi, j'y vais pas souvent parce que quand je reste là-bas, ça dure trop longtemps, ça peut durer... Et alors que. Et quand j'étais là-bas, il y a une femme. Écoutez cette histoire incroyable. Une femme, elle m'attrape et me dit, Ravirka, j'ai mon fils l'aîné, il a 16 ans. Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a fait une crise. Maintenant, il veut manger la pizza qui n'est pas cachère. Il ne veut plus faire Shabbat, il ne veut plus rien. Rien. Elle me dit, est-ce que vous pouvez lui parler? Moi, je veux bien lui parler, mais est-ce qu'il a des oreilles? Elle me dit, alors je rencontre ce garçon. Bon. Je lui dis, quel âge tu as? Il m'a dit, 16 ans. Je dis, à quel âge t'as arrêté l'école? Il me dit, j'ai pas arrêté l'école. Je dis, mais à quel âge t'as arrêté l'école? Il me dit, j'ai pas arrêté l'école. Je dis, à quel âge t'as arrêté l'école? Alors, je vous explique. Quand le rabbin, il répète la question, c'est pas qu'il a pas compris. C'est que c'est toi qui a pas compris la question. Alors, je lui ai pas dit, à quel âge t'as arrêté l'école? Je lui dis, à quel âge t'as arrêté de travailler à l'école? Parce qu'un gosse de 16 ans, qui fout plus rien depuis le CM2, il a un cerveau de CM2. Donc, moi, je veux savoir à qui je parle. Parce que je vais pas avoir un discours d'un type de 16 ans si t'as un cerveau de CM2. Comprenez ou non? C'est une PlayStation mal garée, le type. Quand je vais faire... Écoutez bien ce qu'il m'a dit. J'ai passé 3 heures. C'est beaucoup 3 heures pour moi. Moi, je peux convertir en curé en 5 minutes. 3 heures. Au bout de 3 heures, il m'a dit, écoutez, je sais très bien ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mais quand vous voyez votre mère qui fait des Tehillim en maillot de bain bikini sur la plage des Lattes, vous comprenez tout de suite que la religion, c'est du bidon. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Vous savez que l'enfant, il ne sait pas mentir. Une des qualités supérieures de l'adulte, c'est qu'il est, il sait mentir. Maintenant, c'est quoi mentir? C'est quoi? C'est pas mentir, 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 on n'est pas des menteurs. Mentir, ça veut dire être incohérent. Suivez ou non? Donc des fois, il ne faut pas faire teshuva sur la vera. Il faut faire teshuva sur l'incohérence. Une fois, j'étais à une femme comme ça, une religieuse, avec la, ils sont venus pour un shalom bayit et tout, et je la sentais un peu zarbi. Je lui dis, madame, comment ça se passe la religion? Elle me dit, mais nous sommes religieux, bon, Hachem, depuis des années, oui. Alors moi, je fais genre, je dis, vous allez à la plage? Elle me dit, oui. Mixte? Ah ben oui. Je dis, mais vous restez habillé? Ah non, elle me dit, non, j'adore le soleil. Je dis, comment vous faites? Elle me dit, ben, je mets mon maillot de bain, mais je garde la perruque. C'est bien. Bah, faut juste trouver du cochon avec le Herscher. Ça doit exister, non? T'as qu'à épouser ta maîtresse, comme ça il n'y a plus de problème. Ah, j'ai pas pensé. Une fois, j'ai fait un séminaire à Toulon. Il n'y a pas très long. Ouais. C'était que des jeunes. Alors je finis la conférence. Puis il y a une jeune fille qui vient me voir. Elle me dit, vous savez, Rav, je voulais vous dire que je suis un peu contrarié. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je trouve que vous êtes trop affirmatif. Vous parlez comme si on était tous des religieux. Je dis, non, mais vous êtes juif. Elle me dit, oui, alors je parle comme si vous étiez juif. Alors, maintenant, après, vous, c'est à vous de mesurer la distance entre ce que vous entendez et ce que vous êtes. Alors, elle me dit, je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, ben voilà, je dis, mais vous êtes pratiquante? Elle me dit, oui, je fais tout ce qui est pratique. Je dis, bon. Elle me dit, je suis chomeret Shabbat. Je dis, bracha, Baruch Hashem. Et je mange kasher. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ben, j'ai perdu mon grand-père. J'ai pris sur moi de faire cette mitzvah. Ça m'a fait de la peine. Je dis, parce que vous savez, il y a 613 mitzvot, ça va faire une hécatombe. Si vous prenez une mitzvah par mort, je... Alors elle m'a dit, non mais vous comprenez... Alors moi je lui dis, et la sniout? Parce que j'ai vu qu'elle est venue avec un pull très long. En fait, c'était une jupe. Ouais, je dis, mais... Et la pudeur? Elle me dit, non, je suis pas au niveau. Moi je savais pas qu'il fallait monter sur une étagère pour prendre une jupe, mais bon. Elle m'a dit, j'ai pas senti le déclic. Vous savez, dans la vie, c'est ou des clics ou des claques. Maintenant, vaut mieux le déclic que l'attente des claques pour avoir le déclic. C'est comme l'autre, maintenant, qui a reçu la lettre d'avocat, il dit, tiens, je vais dire à ma femme que je l'aime. Il y a des gens comme ça. Maintenant que leur mari commence à regarder ailleurs, elle dit, tiens, je vais me coiffer. Eh ben, c'est bien. Pourquoi il est obligé tous les jours de voir une espèce de mamie Hélène ou la... Tu peux t'arranger un peu, tu peux... Pour une bar mitzvah, tu es Madonna, et à la maison, c'est... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas la sniout? Quelle différence? Dans le Sefer Torah, il n'y a pas de différence entre le Shabbat, la sniout, là. Elle m'a dit, bon, on va faire un petit test ensemble. Et je le fais avec vous en même temps, d'accord? Qu'on fait genre thérapie de groupe. Je lui ai dit, imaginez, vous êtes dans l'ascenseur. Vous êtes une fille normale, une fille sérieuse. Bon. Imaginez, vous êtes dans l'ascenseur, et votre voisin, le goy, Christian de la Croix, il vous dit, mademoiselle Bénichou, Dieu vous a pourvu d'un corps magnifique, pourriez-vous vous mettre en culotte et en soutien-gorge? On stoppe l'ascenseur, je vous touche pas, rien que vous vous déshabillez. Qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, quoi? Il me demande ça? Pervers, pourriture, tordu, malade, mais je l'attaque pour harcèlement, je l'attaque pour agression sexuelle. Je l'emmène en prison, c'est un malade, c'est un serial killer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit que vous vous énervez, tout de suite il vous dit « Excusez-moi, c'était une proposition, nous sommes au mois de décembre, je comprends que c'est pas évident pour vous, donc je vais attendre le mois d'août sur la plage. » Alors elle me dit « Non mais c'est pas pareil, parce que l'ascenseur c'est pas un endroit où on se déshabille, mais la plage c'est fait pour se déshabiller. » Maintenant tu vois bien que le type il te regarde avec des yeux bizarres. Mais tu dis, c'est pas grave, c'est un endroit où on se déshabille, donc c'est bon. Ah, je dis, d'accord, donc les endroits où on peut se déshabiller, on peut se déshabiller. Les endroits où on se déshabille pas, on se déshabille pas. Elle me dit, vous avez compris, j'étais content. Alors je lui dis, en continuant dans votre raisonnement, à ce moment-là, il peut rentrer avec vous à la salle de bain, puisque c'est un endroit où on se déshabille. Elle me dit, ah ben non. Elle me dit, non, la salle de bain, c'est pudique. Je dis, non, vous regardez les sous-vêtements, mais il rentre avec vous à la salle de bain, parce que c'est un endroit où on se déshabille. Mais elle dit, la plage. On peut se déshabiller, donc il peut venir. L'ascenseur, on ne se déshabille pas, mais la salle de bain, on se déshabille. Alors venez, rentre avec vous à la salle de bain. Elle me dit, j'ai mal à la tête. Et on n'a même pas commencé à réfléchir. Vous voyez votre problème aujourd'hui. Vous ne devez pas faire teshuvah sur la pudeur, vous devez faire teshuvah sur la cohérence. C'est comme les gens, ils mangent kasher, mais dehors, non. Ils vont au McDo, ils prennent un poisson. Mais c'est pas kasher. Non, mais c'est juste un poisson. Mais va arriver à 120 ans là-haut, le bon Dieu va lui dire de qui je me fiche. Tu manges kasher, tu manges kasher. Ouais. T'es pudique, t'es pudique. Tu fais Shabbat, tu fais Shabbat. Le type fait Shabbat, mais pas pendant les vacances. Il y en a une fois, j'étais à Avignon. Il m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai une ambiguïté. Je suis Shomer Shabbat, mais que le vendredi soir. Pas le samedi matin. Je dis, mec, tu sais même pas quoi dire. Comprenez ou non? L'autre dit, je mange kasher, sauf au restaurant. Je dis, comment vous avez deux estomacs? Je ne dis pas la shonara, sauf sur ma belle-mère. Ça, c'est une mitzvah, je suis obligé. Je ne vole pas, Hasvei Shalom, mais les goïs, mon business, je suis obligé. Là, je les ouvre un après l'autre. Ouais. Je ne comprends pas, mais vous volez ou vous ne volez pas? Vous êtes honnête ou vous êtes malhonnête? Vous êtes fidèle ou vous êtes infidèle? C'est compliqué. Il faut faire teshuvah sur la cohérence. Maintenant, quoi elle vient c'est quoi l'exigence de cohérence? C'est par rapport à l'incohérence. Maintenant, c'est quoi l'incohérence? C'est un rapport à la réalité. Maintenant, c'est quoi la réalité? C'est le bon Dieu. Donc, le bon Dieu, il pose une question. T'es juif ou t'es pas juif? Alors, des fois, il te pose une question sous la forme d'une épreuve. Ouais, par exemple, t'as très très faim. T'as vraiment besoin de douceur et tu te trouves en face d'une religieuse. Un gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. D'accord. Donc, Ziana. Alors. Mais la religieuse n'est pas cachère. Le gâteau, hein. Donc comment vous allez faire? Mais j'ai faim. J'ai faim. C'est juste un gâteau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Au maximum, de la glycérine, je sais pas moi, un peu d'alcool de vin, quelques centaines d'avérotes. Au maximum. Mais j'ai tellement faim. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Ouais. La personne me dit, vous savez, en ce moment, avec mon mari, ça fonctionne pas, on se comprend pas, je ressens plus rien, au niveau intime, c'est plus du tout ça. Je dis, attention, il arrive. Il me dit quoi? Je dis, l'autre, il arrive, l'autre. Il arrive. L'autre. L'autre monsieur, il arrive. Peut-être qu'il est déjà venu, parce que comment vous êtes rendu compte qu'il était comme ça si vous n'avez pas comparé? Si vous avez comparé, c'est qu'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur. Ça fait deux, ça fait beaucoup. Donc il y avait une épreuve. Il y a une fatigue dans ton couple. Travaille ton couple. Toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis? J'ai une fatigue dans le couple, qu'est-ce que je fais? Je regarde ailleurs. C'est dangereux. J'ai eu des cas, des fois, graves. Une fois, la personne, elle est venue, elle m'a dit, oui, mon mari n'est pas religieux, mon mari n'est pas sérieux, mon mari s'est engagé, il m'avait promis la religion, la religion, la religion. Bon, on a essayé, on a travaillé, on a truqué. Bon, ils ont divorcé. Maintenant, le mec, il est devenu religieux et la fille, elle a tout lâché. Maintenant, lui qui était une tête dure, genre laisse-moi tranquille, très rationnel, moi j'ai des valeurs, j'ai pas besoin de tout ça. Maintenant, il veut étudier, il apprend, il révise, il truc, et les téfilines, et la kippa, et l'autre que soi-disant, c'est pas normal, c'est Khilou Lachem, un mec tous les soirs à la maison. Alors je vous dis le secret, c'est que souvent ce que tu exiges de l'autre, c'est ce que tu n'as pas réglé personnellement. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Et c'est une halakha dans Pessah. Vous savez qu'à Pessah, il est interdit d'avoir du khametz à la maison. Vous êtes au courant? Maintenant, si je vais chez un autre juif et qui a du khametz à la maison, il a une baguette sur la table, est-ce que je transgresse l'interdit de posséder le khametz et l'interdit de tirer profit du khametz? Oui, non, oui, non. Vous êtes sûr? Je transgresse pas Pessah sur le khametz de l'autre. Oui? Oui ou non? Je vais chez mon voisin. Il a une baguette sur la table. Il m'a dit Pessah kasher ve sa mère. Et moi, je vois la baguette. Est-ce qu'en étant chez lui à la maison, en voyant la baguette, je transgresse l'interdit de l'Oirai et l'Oematse? Oui, non? Allez, les Chachamim. Oui ou non? Non, c'est sûr? C'est clair? Très bien. Donc, de là, tu apprends une mitzvah extraordinaire. C'est que le khametz de l'autre n'est pas interdit, donc arrête de chercher le khametz de l'autre. Cherche ton khametz à toi. on est tous spécialistes du Hametz de l'autre. C'est exactement pareil. La Torah, elle a donné un paradoxe. C'est quoi le paradoxe? D'un côté, à Pessah, on ne doit pas du tout manger du Hametz. Et on doit absolument manger la matzah. C'est un phénomène bizarre. Parce que vous savez qu'une pâte, elle est ou Hametz ou matzah. Maintenant, vous prenez de l'eau, vous prenez de la farine, vous mélangez. Ça fait une pâte. Vous attendez 18 minutes, elle devient Hametz. Après qu'elle est devenue Hametz, elle n'est plus matzah. Donc ça veut dire que la pâte, elle est d'abord matzah, et ensuite elle devient Hametz. Maintenant, si vous la mettez au four avant la fermentation, avant les 18 minutes, c'est une matzah. Si vous ne la mettez pas au four, elle fermente, elle devient Hametz. Maintenant, si on dit que le Hametz, ça représente le mal, et que la matzah, ça représente le bien, donc la pâte, elle était d'abord matzah, et elle est devenue Hametz. Donc elle était d'abord bien, et ensuite elle est devenue mauvaise. Donc c'est quoi le mal? Le mal, c'est du bien qui a mal tourné. C'est vrai, non? Tu vois, ce couple, ils ont tout pour être heureux. Pourtant, ils divorcent. À cause de quoi? Le Hametz. L'entêtement, la yitzhara, la bêtise, l'amour propre, les nerfs, les incohérences, la lourdeur, le manque de repères. C'est du Hametz, tout ça. Ce garçon, il est extraordinaire. Un bon fond. Et c'est une matzah, il est devenu du Hametz. C'est du bien qui a mal tourné. Je vais dire mieux, des fois, les gens bien, ils tournent plus que les gens mal. Parce que le type qui brêle, qu'est-ce qui va lui arriver de plus? Il s'appelle déjà Jacques. Mais celui-là, il est chacham. Celui-là, il est sensible. Celui-là, il est à l'écoute. Donc, il va faire des avérotes vicieuses. Pas comme le baha. Oui, il va faire des tralouèdes, il va mentir, il va tricher, il va embrouiller. Pourquoi? Prends ton intelligence pour être le meilleur de la classe. Pourquoi tu prends ton intelligence pour être le plus deb? Pour être le clown? Pour te faire renvoyer le premier? C'est la même intelligence. C'est la même. Ah, la seule différence, c'est que pour être nul, il faut se laisser aller. Et pour être bon, il faut se battre. Et c'est la logique. Vous savez que la pâte, au bout de 18 minutes, elle devient Hametz, vous êtes au courant. Mais tant que tu travailles la pâte, elle ne devient pas Hametz. Tu peux travailler 1 heure, 2 heures, 10 heures, elle ne devient pas Hametz. Pourtant, ouais, et c'est un phénomène bizarre, il s'est passé plus de 18 minutes. Ça veut dire que le temps pourrit la situation si tu laisses agir le temps. Mais si tu travailles, ouais, le temps n'agit pas. Maintenant, par exemple, on prend l'exemple du couple, parce qu'il y a beaucoup de personnes concernées, d'autres qui seront bientôt concernés, il vaut mieux se préparer au mariage un peu avant. Parce que les gens, ils choisissent le traiteur, ils choisissent la copine, ils oublient de choisir les midotes. Il faut se travailler. Moi, mes enfants, personnellement, je leur dis, travaillez les midotes. Ils me disent, mais papa, tu restes 5 heures avec ce couple, 6 heures avec celui-là, 3 heures. Je dis, les midotes, travaillez les midotes. C'est pas la peine de parler, il n'y a rien de magique. Hein. Mais si on mange des mezouzotes, on fait des tisanes de talit de katane, ça ne marche pas. Il faut travailler les midotes. Donc c'était quoi l'idée? C'est que tu prends de l'eau et tu prends de la farine. Vous savez que l'eau et la farine ne se ressemblent pas du tout. La farine est extrêmement sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une cuillère de farine à jeun. C'est une crise d'asthme instantanée. La farine est très sèche. L'eau par contre est très humide. Les étudiants, quel est le taux d'humidité de l'eau? Hein? C'est au moins 100%. La preuve c'est que quand vous enlevez l'humidité, il ne reste plus rien. Hazak, ouais. Donc, voilà, essayez quand même. Donc, c'est quoi l'idée? Sauf que l'eau est très humide, ouais, et la farine est très sèche. L'homme ressemble à la farine, parce que c'est lui qui détient le blé. D'accord? Il est très sec, parce qu'il a beaucoup de mal à exprimer les sentiments, mais sec. La femme, elle, est très humide. Pourquoi? Parce qu'elle a le pleur facile, elle a l'émotion facile. L'eau, maintenant, quand tu la coupes, ouais, elle reste toujours en un seul morceau. Tu mets des coups de couteau dans l'eau, elle reste... une seule. Par contre, la farine, elle est faite de petites particules. La farine, tu ouvres le sac, tu fais... il s'éparpille. L'homme, il se disperse facilement. Maintenant, tu mets dans un sac en tissu la farine, tu peux casser un mur. L'homme, à court terme, il est très fort. À long terme, il n'est pas fort. La femme, elle reste. Tu fermes la bouteille, tu peux attendre 10 ans, elle ne bouge pas. La femme, elle prend la forme de la bouteille ou de la robe, ça dépend. Ouais. Elle prend la forme de son mari. Celle-là, elle s'adapte avec celui-là. Tu vois, des fois, tu vois des couples, tu dis, mais comment ils font tous les deux? L'autre, c'est un géant en mathématiques. Il est prix Nobel de physique. Ouais. Il est toute la journée en train de réfléchir à la trajectoire de la particule. Et l'autre, le coiffeuse avec un QI double, ce qu'on appelle le QI-QI. D'accord. Elle est en train de faire des mots croisés. Elle dit Mordechai. Lui, maintenant, il est en train de réfléchir. Il
il est parti là-bas. Le parallèle, il est en train de faire les 77 parallèles qui existent entre la pensée d'Einstein et le Maharal de Prague. Et il est en train de faire des mots croisés. Et dit Mordechai, tu peux m'aider ? Une note de musique qui commence par un D qui finit par un O. Alors lui, il tourne la tête, il voit une masse de particules en fusion. Il n'arrive pas à comprendre comment tellement de lourdeur elle peut être concentrée dans un volume si petit. C'est un trou noir, l'absorbeur de lourdeur. Toutes les émissions de télé, tous les galas, tous les femmes actuelles, elle a tout à voir. C'est une puissance incroyable, Léinara. Kevchem la protège parce que ça aurait pu être pire. D'accord, donc ça veut dire quoi? Tu dis, mais comment ils se sont mariés ces deux-là? Ouais. Des fois, tu vois le mari, un Allah de chez Allah. Et la femme, khfifa. Une cocotte minute. Et lui, la fresque. Une mosaïque du troisième. Comment ils s'arrangent les deux? Maintenant, elle trouve le nahat. Il n'y a que lui qui arrive à la calmer. Ouais. Et lui, si Dieu veut, il envisage l'idée du mouvement. Il va vers le mouvement. Ouais. Il s'arrange. Ils ont des enfants normaux. Tu dis Hachem, mais avec Zivugim. Hachem, il crée des coupes. Parce que vraiment, toi, jamais tu aurais mis un Doberman avec un papillon. Jamais. Ouais. Et il s'arrange. On verra la gueule des enfants. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. Ça veut dire que le paradoxe, la différence, ouais, quand on l'utilise, elle nous rapproche, et quand on la subit, elle nous sépare. Ça va? Maintenant, l'eau et la farine ne se ressemblent pas. Et quand tu les mélanges, ça fait de la pâte. Maintenant, quand tu as bien mélangé la pâte et la pâte, et vous savez, c'est connu, plus on mélange, plus on pétrit la pâte, plus le pain est bon. Si tu pétris pas bien la pâte, alors elle tient pas. Ouais. D'ailleurs, on le dit souvent, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous. On a fait une espèce de pâte brisée. D'accord, parce que le couple, il est fragile parce qu'on n'a pas pétri, on n'a pas pétri comme il fallait. Maintenant, quand tu pétris, comment tu sais que la pâte, elle est bien pétrie? Parce que quand tu la déchires, quand tu déchires le pain, tu vois les fibres, ils sont comme ça. Tu vois, waouh! C'est des centaines et des centaines et des centaines de réactions chimiques entre l'eau et la farine. Maintenant, quand tu as bien mélangé, malheureusement, pour ceux qui sont déçus de ça, c'est que l'eau a disparu dans la farine et la farine a disparu dans l'eau. Premier élément. Deuxième élément, c'est que la farine s'est transformée grâce ou à cause de l'eau et l'eau s'est transformée à cause de la farine. Donc si on fait un deal, on dit écoute, moi je donne de la farine, toi tu donnes de l'eau. Allez, on mélange. Après j'en ai marre de ta tronche, rends-moi la farine. Alors reprends l'eau, on ne peut pas. Donc bien qu'ils sont différents, quand on les mélange, ça fait quelque chose d'uniforme et on peut plus les séparer. Pourquoi? Parce que chacun s'est sacrifié pour l'autre. Chacun, il a changé pour l'autre. Donc l'homme, il devient un homme grâce à la femme. La femme devient une femme grâce au mari. Pour ça que femme et épouse, c'est pas le même mot. Comme homme et époux, c'est pas le même mot. Ça va? Parce que c'est une autre nature qui a changé. Ah, si c'est comme ça, qu'on peut plus enlever l'eau, on peut plus enlever la farine, comment les gens ils divorcent? Ils ne se marient pas. Ils ne mélangent pas. Ils font genre, ils sont ensemble. Ils cohabitent au lieu de coexister. Ils restent des années ensemble, mais ils ne créent pas la communication. Ils ne créent pas la confiance. Ils ne créent pas la solidarité. Même l'intimité, c'est chacun, il prend ce qu'il a à prendre. C'est pas que moi, je veux faire pour l'autre. Je fais pour moi. Moi, je consomme, toi, tu consommes. Donc, en vérité, on n'a rien en commun. Alors, au bout de 10 ans, quand on n'a rien en commun, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Même au niveau légal, c'est un gros problème. Comment t'as pu faire des enfants avec un colocataire? C'est pas évident. C'est les enfants de qui? Du loyer ou de la... Moi, je vois. Moi, les gens, ils viennent. Ils me disent, écoutez, ils me disent, on veut divorcer. Je dis, vous ne pouvez pas divorcer, vous n'êtes pas mariés. D'abord, on se marie. Après, on divorce. Les gens, ils se marient pas. De toute façon, depuis le début, de toute façon, c'était pas ça. De toute façon, je l'ai mal senti. De toute façon, même à la roupa, j'étais pas bien. Et 5 ans après, je vois toujours pas l'intérêt de parler. Puis, j'ai pas envie d'investir. De toute façon, il comprend rien. Puis, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et puis, ma mère va me revenir. Ça veut dire que ça fait 10 ans que tu entretiens la distance et tu t'étonnes qu'elle s'est mise en place. Tu as mis des barres de fer pour mettre en place la fracture. Après, tu dis, on n'arrive pas à se rapprocher. Communiquer. Communication, c'est communiquer. communiquer, c'est commun. Et commun, c'est comme un. Donc, qu'est-ce qu'on a en comme un? C'est ce qu'on a mis en un. Maintenant, tu l'as mis en comme deux, en comme trois, en port un, en port deux. C'est comme si quelqu'un ne branche pas l'écran sur la tour et il dit « Je comprends pas, ça marche pas. J'ai été à la FNAC, je l'ai payé 63 000 euros. Ouah, le Pentium 83, 19 disques durs, 24 cartes mères. Il n'y avait rien sur l'écran. » Il dit « Mais avez-vous branché le câble ?» Tu branches. Je vois les gens, ils ne sont pas branchés. C'est-à-dire que moi, au bout de 10 minutes, je lui ai expliqué, c'est sa femme. Lui, ça fait 20 ans qu'il est marié. Ouais. Après, je lui explique à la femme qui c'est son mari. Elle me dit, mais d'où vous avez tout ça? Des fois, je fais un cours comme ça. Ils viennent à la fin, un couple, ils viennent et me disent, depuis combien d'années vous vivez avec nous? Ils ont peur, ils regardent s'il n'y a pas des caméras dans le lit. Comment je sais tout ça, moi? Alors, je vous dis la vérité. Les gens qui luttent contre leur Yetzer Hara, ils sont uniques. Mais les gens qui écoutent leur Yetzer Hara, ils sont tous pareils. Ça va? Non? On a tous le même Yetzer Hara. Donc d'être nul, d'être débile, d'être entêté, d'être coincé, d'être pas bien dans sa tête, d'être mal, c'est le même Yetzer Hara. Maintenant, si toi tu luttes contre ton Yetzer Hara, tu vas dévoiler une facette de toi qui est unique, parce que chaque Neshama il est unique. Mais celui qui n'est pas en lutte contre le Yetzer Hara, alors il va suivre ou le conditionnement de la société, ou il va suivre ses pulsions. Et les pulsions, on les connaît. Moi j'étais bachour encore. On a invité quelqu'un Shabbat à la maison chez mes parents. Et ce type n'était pas religieux, je voyais, il n'était pas sur Mère Shabbat. Alors on débarrasse la table. Et maintenant, on a tout débarrassé, il restait des petites miettes sur la table. Maintenant, il y a un petit tas de petites miettes, et il y a la fenêtre. Et je le vois, il est en train de tourner comme ça. Genre, il cherche, on a enlevé les bouteilles, on a enlevé les verres, on a enlevé les couverts, il reste le petit tas de miettes. Alors je le regarde, je lui dis, il ne faut pas jeter les miettes par la fenêtre. Il m'a dit, comment tu sais que j'allais faire ça? Je dis, parce que moi, si j'étais pas religieux, et qu'il y a la fenêtre, et il y a les miettes, moi j'aurais pensé, je vais jeter les miettes par la fenêtre. Maintenant, je connais ton Yetzer Hara. Maintenant, normalement, les gens normaux, ils sont pas assujettis à leur Yetzer Hara. Donc, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Maintenant, je vous dis la vérité, les trois quarts des gens. Donc, tu peux anticiper sur ce qu'elle va dire, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle croit. Des fois, je vous fais court comme ça. Maintenant, je vois pendant que je fais court, il y en a qui font comme ça, 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 il y en a qui font comme ça. Alors, moi, je les regarde. Maintenant, je parle. Vous êtes seul à me voir, mais moi, je vous vois tous. Alors je finis le cours, je dis, est-ce qu'il y a des questions? Alors je dis, vous monsieur, vous n'avez pas envie de telle question? Oui, oui, justement. Après je dis, vous n'avez pas telle question? Il me dit, oui, j'ai cette question. Je dis, vous avez cette question? Vous êtes rentré à 9h27, moi j'ai commencé à 9h, il m'ouvre que les 27 premières minutes. J'avais déjà répondu à la question, vous ne l'avez pas. Maintenant vous avez ce problème avec ça, parce que vous avez réagi sur ça et sur ça. Donc je connais votre malaise par rapport à ça et ça, donc vous êtes remis en cause sur ça. La remise en cause, ou tu la prends et tu évolues, ou tu la renvoies à celui qui te la renvoie. Donc j'ai compris votre malaise. J'ai dit, mais je suis un prophète, moi. Je suis un pro de la teuf. Non, pas du tout. Moi, je suis une personne qui sait analyser ce que tu me donnes à analyser. Oui? Au contraire. Est-ce que quelqu'un, il fait l'inverse? Que quelqu'un, il cherche à être unique, à être soi-même? Si tu es unique, je ne peux pas savoir qui tu es. Mais si tu es comme tout le monde. C'est les bouteilles de Contrex. C'est des bouteilles de Contrex. Elle est plus brillante. C'est des bouteilles de Contrex. Tu les vas au magasin, tu les vois une à côté de l'autre. Le même jean, le même t-shirt, le même blague, le même accent, la même façon de marcher, la même haleine. Je dis, il faut être un petit peu... Moi, j'avais 15 ans. Je suis rentré dans une école juive à 15 ans. Alors, les filles, elles viennent pour me faire la bise. Je dis, mais t'es pas ma cousine, pourquoi je vais t'embrasser? Je dis, t'es bizarre, toi. Elle me dit, on fait une boum, tu viens? Je dis, pourquoi vous allez éclater qui? Bon, j'étais un peu cinglé. 15 heures de philosophie par jour, ça rend un petit peu cinglé. Mais c'était de dire que tu as quelque chose de spécifique à toi-même. Maintenant, le droit d'être soi-même, on appelle ça en français le respect de soi. Maintenant, la société a intérêt à fabriquer des brels, puisque les brels consomment par compulsion. Les gens intelligents réfléchissent. Donc, ils vont consommer moins. Maintenant, on n'est pas obligé de devenir des produits de société. On n'est pas obligé. Il y a déjà 7 milliards. On ne va pas rajouter encore. On n'est pas beaucoup. On est peu nombreux. Ouais. Mais on peut devenir des diamants. Ou alors des éclats de pare-brise. Tu dis, c'est mieux que rien. Non, c'est dommage. Tu peux être un Stromon. tu peux être une bombe atomique. Pourquoi tu veux être un lourd? Tu dis, ah bah attends, j'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a PSG qui joue. Mais de toute façon, ta vie, c'est un match nul. Qu'est-ce que t'en as foutu du PSG? Donc c'est l'inverse. Que quelqu'un, il veut vraiment travailler pour ça. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais mettre de la farine et je vais mettre de l'eau. Attention, vous savez que quand on fait les matzot, dès qu'on met l'eau dans la farine, on démarre le chronomètre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va devenir hametz. On a dit deux exceptions. Soit on met la pâte au four, on arrête la fermentation, soit on travaille la pâte. Donc tant que tu travailles tes midot, tant que tu travailles ton couple, tant que tu travailles ta relation avec Hachem, tant que tu travailles ta prière, tant que tu travailles ta sniout, tu ne vas pas devenir hametz. Maintenant, tu te relâches un peu. Tu dis, bon, grâce à Dieu, on a fait tchouba il y a 5 ans. Bon, ça va, si j'ouvre 3 boutons, ce n'est pas grave. C'est le début. Et la jupe, elle est un peu fendue quand même. Ah, faut pas... C'est comme tu veux. Et celle-là, elle est très fendue. Ouais, mais bon... Non, mais on voit le soutien-gorge. Non, mais ça n'a rien à voir. T'as pas... C'est pas clair. C'est pas clair. On a Internet. Bon, c'est normal. Il faut les infos. Les billets d'avion. Mais t'as téléchargé quoi, là? C'est rien, c'est une petite série, mais c'est pour se détendre. Et là, j'ai vu, là, dans l'historique, 4h30 du matin. C'est quoi, c'est... Y a quelqu'un qui fait de la formation en gynécologie chez vous? Oh, faut pas voir le mal partout. Bah, il est 4h30 du matin, tu vois ton mari, il est pas à côté de toi. Tu dis, à tous les coups, il est en train de faire du Zohar. Ah, le cachotier. Ah, le cachotier. Il doit être le Harizal ou le gars de Vilna. Moi, je dis, quand ton mari, à 2h30 du matin, il te dit, je vais aller vérifier les mails, tu dis, je vais rester à côté de toi. Il va te dire, je les vérifierai demain. C'est une tentation. Avant, tu voulais aller dans un sex shop. Il fallait prendre le métro, aller à rue Saint-Denis. Il fallait la jouer discrète. Après, il fallait arriver comme ça. Genre, tu regardes à côté, tu rentres. Et quand tu es dedans, c'est pas évident. Ils ont tous des têtes bizarres. Mais non, tu es devant ton écran, tu fais le dafayomi, tu cliques, tu es dans le sex shop. Il y a des rabbinim, ils ont dit, Internet, c'est le plus grand fléau que les béné Israël ont eu depuis le matin de Torah. Pire que les pogroms, pire que les nazis. Pourquoi? Parce que là, la pourriture, elle rentre tranquillement. Tranquillement. Même dans des yeshivot, même dans des rabbinim, même dans des trucs. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un il m'a appelé. Un rave, il m'a dit, écoutez, j'ai un problème avec une femme d'Anvers. Elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Mais la fille, elle est comme ça. Et maintenant, elle a déliré. C'est un copain à elle, un ancien copain. Elle est devenue folle, elle veut quitter son mari. C'est rien, un petit forum. On discute, on fait rien de mal. Une autre fois, j'étais dans une société. Un type, il m'appelle pour un shalom bait. Il dit, écoute, je sais pas ce qu'elle a ma femme et tout ça. Elle a des comportements bizarres en ce moment, elle est très cool, elle me dit laisse-moi tranquille, tu me saoules, et puis elle s'habille bizarre, maintenant elle s'habille serrée, et puis elle veut travailler seule, elle travaille qu'avec des hommes. Et j'étais dans le bureau, j'ai dit allume Internet, j'ai dit allume Facebook. Comment elle s'appelle votre femme? Tac, je vois sa tête. J'ai dit passez-moi son numéro. Je l'appelle, je dis voilà, je vous appelle de la part de votre mari. Ah bon, c'est quoi le problème? Je vous ai posé une question. Elle me dit oui, mais il me soupçonne, il voit le mal partout, mais il est fou, mais il est malade, il est jaloux, il est obsessionnel. Je lui dis attendez madame, j'ai une question. Comment ça se fait que sur Facebook, il n'y a que vous? Il n'y a pas votre mari, il n'y a pas vos enfants, vous êtes seul. Toutes les photos, vas-y que je te... Quel est votre prénom? Chofani. Ah bon, c'est joli ça, Chofani. C'est pas Toftofa plutôt? T'as compris ou non? C'est rire comment le vice il est. Je dis, religieux, avec la Torah, sans internet, sans télé, sans portable, ouais, avec la kiddouche, avec le shabbat, avec les chants, avec les divrei Torah, avec la prière, c'est pas facile. Alors comment ils font les gens? Avec internet, avec la télé, avec la télé, l'internet dans les chambres, chaque gosse, chacun avec des portables, vas-y servez-vous, ouais. Et les films qui passent toute la journée, ouais. Et les tentations, et les copines, et les vas-y que je te truc, et en 3 mails je me couche, ouais. Comment ils font? Je suis dit kol hakavod. Comment ils font pour essayer d'être tzadikim? Je suis étonné. Nous, on crève, ouais. Et je vous dis, on est comme ça. Hein. Comment ils font les gens qui... Il n'y a rien. Wow. La place d'Ibiza. C'est quoi le problème? Une fois, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, qui as-tu? Tu exagères. Je dis, j'exagère? Je dis, quelle est ta grande fille? Il m'a né à 19 ans. Je dis, d'accord. Elle est où, là, maintenant? Il me dit, je sais pas. Ben, je sais pas, il est 11h30 du soir, elle est où? Il me dit, j'en sais rien. Ben, elle doit être fait de voir chez une copine. Vas-y, téléphone. Il me dit, mais ça va, non? Ben, téléphone. Il appelle. Ah non, elle est pas là. T'appelles ta femme, elle est où? Je sais pas. C'est bien, là, t'es... Je sais pas, je... Ça va, t'es tranquille? Ben, j'ai confiance en elle. C'est-à-dire quoi, là, des préservatifs? C'est quoi, la confiance? Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Comprenez ou non? Nous, on a grandi avec des goïms, dans une cité. Tous étaient guédros, tous morts en overdose et tout ça. Mais on avait des principes, on était comme ça. Là, maintenant, les gens, ils se lâchent complètement et ils n'ont pas peur. Moi, je sais pourquoi ils n'ont pas peur. Tu sais pourquoi? Pourquoi les gens, ils n'ont pas peur pour leurs enfants? Parce qu'ils veulent délirer encore plus que leurs enfants. Donc, s'ils vont dire à leurs enfants, ne fais pas, ils ne peuvent pas y délirer plus. Moi, les gens après Pessah, ils m'appellent. Ils me disent, Rav, j'étais à Eilat, j'ai un très gros problème. Je dis pourquoi? Voilà, j'ai surpris que la femme de mon meilleur ami, eh ben, elle a couché avec un autre. Pendant Chol HaMoed, son mari, il est rentré à Paris pour le business. Et elle a couché avec un copain à son mari. Je dis, ah, je suis embêté. Il me dit, pourquoi vous êtes embêté? Je dis, je ne peux pas te dire pourquoi je suis embêté. Il m'a dit, pourquoi? Il me dit, je ne peux pas te dire. Ah bon? Pourquoi je suis embêté? Parce que moi, c'est sa femme à lui que j'ai su par quelqu'un qu'elle l'a trompé avec un autre pendant le même séjour à Eilat. La séance d'échangisme, tous les étages. Que des feuges. Genre la méadrine, maintenant ils font... Enfin... Donc lui, il vient pour me raconter ce que je dois dire à mon copain que sa femme le trompe. Et moi, je sais que sa femme à lui le trompe. Allez, vas-y. C'est genre le poker. Vous avez compris ou non? Maintenant, Baruch HaShem, je vous parle de choses qui sont complètement étrangères à vos problèmes. Mais il faut être vigilant. Alors, je vous donne la clé. Dans la vie, on peut tout faire. On peut aller partout, mais il faut avoir les yeux ouverts. Ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit, « Barati lecha yetzerara, barati lecha Torah tavlin. » J'ai créé la Torah, j'ai créé le yetzera. Hachem, il a dit, j'ai créé le yetzera, j'ai créé la Torah en médicament. Ouais. La Gemara, elle dit, « Machal lema davar domé. » C'est la Gemara d'Aflamet Bet dans Kiddushin. La Gemara, elle dit, c'est quoi l'exemple? C'est comme quelqu'un qui a une plaie. Il a une plaie, d'accord? Mais cette plaie, elle peut s'infecter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a préparé une rétia, c'est-à-dire un cataplasme. C'est comme des tissus avec des médicaments dessus. Et il dit, « Kolzman sha rétia la maka » Tout le temps que le médicament il est sur la plaie, il n'a pas de quoi avoir peur. Il peut rentrer, il peut sortir, il peut aller dans le chaud, il peut aller dans le froid, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est ce qu'elle dit, la Gemara. Moi, toujours, je me disais, mais je ne comprends pas. Si Dieu il a créé la Torah en médicaments pour l'Yetzer Hara, il ne fallait pas donner cet exemple. Il fallait donner un exemple. Quelqu'un qui a une plaie. Et on lui met un médicament, et le médicament, il a soigné la plaie. Ça va? C'est pas ça l'exemple. L'exemple, c'est, il y a une plaie, on met le médicament, tant qu'il y a le médicament, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Hein? Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plaie, elle ne se soigne pas. Le Yetzer Hara, il ne se soigne pas. T'es le Yetzer Hara quand t'es pas religieux, après tu fais tes chouvas, t'as un Yetzer Hara de Baal Chouva, après t'es religieux, t'as un Yetzer Hara de religieux, le Yetzer Hara, il n'a pas de repos, il ne s'arrête pas à la longueur de la barbe. Moi, les gens, ils me disent, vous vous rendez compte, le religieux, il a fait ça? Je dis, mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, tous les juifs devraient être ultra-orthodoxes. Et dans les ultra-orthodoxes de tous les juifs, il devrait y avoir des adultères, des traloèdes, des magouilles, du CO2. C'est normal. Moi, j'ai une question à l'envers, moi. Comment ça se fait que les gens qui font rien, ouais, on leur reproche les avérotes? Le mec, il met pas les téfilines. Mais de toute façon, mange à Kippour. Et quand même, ouais, c'est le Nefesh Harim qui pose cette question. Il dit, comment ça se fait quelqu'un qui fait rien, on lui compte ses avérotes? Ça compte rien. C'est comme un mec qui est zéro, il connaît rien. Il a grandi en Bretagne avec son père, Clotilde, et sa mère, Éléonore. Bon, c'était un couple un peu joyeux, disons. Enfin, très gay, en tout cas. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Disons qu'ils n'ont pas utilisé la bonne lessive, pour rester poli. On leur a dit de prendre Ariel, mais ils ont préféré. Bravo. Donc c'est quoi l'idée, ouais? Donc c'est quoi l'idée? Est-ce que celui-là, on va lui reprocher des avérotes? Mais il est complètement à côté de la plaque. Malgré que tu es à côté de la plaque. D'accord? Donc je ne peux pas dire comment ça se fait que le religieux, il fait ça. Parce que normalement, on devrait tous être religieux. Tous être religieux. Et malgré ça, il y aurait du Yetzer. Donc Yetzer, il ne va jamais s'arrêter. Maintenant, on t'a juste promis que tant que tu gardes le médicament, ouais, tu gardes le médicament, Moi, mes enfants, je leur dis, mon fils, tu vas à la yeshiva, fais attention dans le métro. Tu vois, il a la yeshiva, qu'est-ce que tu crois, lui? Il pense à la Mishnah, quand même, fais attention. Maintenant, tu es à la yeshiva, on est entre midi et deux heures, le temps de repos, l'autre, il dit, tu veux écouter un film, c'est une proposition, fais attention. Mais on est dedans, on n'est pas dehors. On n'est pas à la sortie dans la cour, et l'autre, il vient, il te dit, tiens. Et il m'a dit, aujourd'hui, il ne s'échange pas des DVD, il s'échange des disques durs. 400 ou la 500 films, le mec, il dort pas pendant 28 jours. Il y en a un, il m'a dit, Rabbi Shetrit, mon fils, il a fait une crise de tétanie, tachycardie, traloc, et dit, je sais pourquoi. Il m'a dit, il a regardé 24 heures pendant 24 heures. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, c'est un feuilleton qui s'appelle 24 heures. On est parti en week-end, on est parti avec ma femme. Il est resté à la maison, il a acheté 4 cartons de Red Bull. Il a mis des 6 machines à Nespresso. Il a mis des pop-corn, des bonbons, des barres de chocolat. Il m'a dit, il a regardé 24 heures pendant 24 heures. On est rentré à la maison, on a trouvé, waouh, il y avait personne, il y avait un système nerveux sur le fauteuil. Moi, je vous fais rigoler, mais bon, je vous ai pas dit qu'à part ça, il a pris 72 000 euros qu'il avait économisé pendant 20 ans, il les a perdus au poker. Il y a la partie marrante, il y a la partie un peu moins marrante. Il m'a dit, alors j'hésite entre le jeter par la fenêtre ou le pendre. Il dit, écoutez, je ne peux pas vous aider, mais je peux donner le tabouret si vous voulez. Je rigole. Non, c'est pas la lacha. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, on a dit la vie c'était paradoxe. Ouais. Le chametz et la matzah c'est les paradoxes. L'homme et la femme c'est un paradoxe. L'homme et l'enfant c'est le paradoxe. Toute la vie c'est des paradoxes. Mais qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah, elle a dit, tu vas mélanger l'eau avec la pâte. Mais seulement, tu vas faire attention à ce que tu fais. Première chose qu'il faut faire attention, on a dit, c'est le temps. Le temps, il passe. Ne laisse pas le temps gagner. Je vois les gens, vous savez, il y a une routine qui s'est installée. C'est normal, métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de trachout. Et quelqu'un, il m'a dit, Raph, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? Je lui fais, à Rosh Chodesh, on fait un Rosh Hadash. Une nouvelle tête. Fais une nouvelle tête. Ouais, c'est pareil. J'ai dit, par exemple, quelqu'un m'a dit, mais comment vous avez trouvé le génie de... Comment il s'appelle ce Steve-là qui a bien fait son job? Steve Jobs. Ben oui, c'est un génie. Le mec, on lui a donné un téléphone, il a fait une bombe atomique. C'est pas rationnel de vendre tellement. Tout le monde a des iPhones. Tout le monde. Et le iPad, et le iPhone, et le Ahmad, et le Halak. Ouais. Et pourtant, même lui, il a mangé la pomme. Je pense qu'il a entendu l'appel. Je pense. Il est parti. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la grande force de Steve, c'est qu'il a été capable de regarder le produit tous les jours comme s'il n'avait jamais vu. En vérité, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'il a été Mehadesh. C'est marqué « Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim et tzavecha » Ayom. Ouais. D'où elle vient la routine? D'où elle vient la dépression? D'où elle vient la glande? D'où elle vient la lourdeur? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu regardes ou dans le passé, c'est une grave maladie, ça s'appelle Yahasra, ou dans le futur, ça s'appelle l'empressement. Tu dois regarder le présent. Maintenant, tu es en terminale. Moi, elle m'appelle la fille. Elle m'a dit, Rabbi Shetrit, voilà, j'ai des gros problèmes. Il ne m'appelle plus. Il est à Marseille. Il me truquait, il m'a déçu. J'ai appris qu'il m'a trompé. Je dis, mais vous êtes en quelle classe? Elle m'a dit, je suis en terminale. Je dis, donc, votre présent maintenant, c'est la terminale. C'est pas le mariage. C'est pas le chidour. Vous vous concentrez sur votre terminale. Si vous voulez vous marier à la fin, c'est bien. Sinon, vous allez vous concentrer sur votre BTS ou là, votre droit. Et quand vous êtes mariable, vous commencez à regarder. Mais là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous mettez dans la tête, vous mettez des problèmes de Shalom Bayit, ouais, en terminale. Donc déjà, la terminale, elle rentre en phase terminale. Ouais. Après le bac, vous l'avez raté, vous êtes en échec. Après, je rentre à la fac. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu penses toujours, tu attends toujours le texto de Kevin que tu as rencontré à Natania pendant le mois d'août. Ouais. Mais lui, il ne t'a jamais rappelé. Alors, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas, tu rentres ni ta droite ni ta gauche. Du coup, tu as fait droit. D'accord. Mais tu n'as jamais aimé. Au bout de 3 ans, tu dis, c'est pas ça que je voulais. Après, ta mère, tu dis, tu as commencé, il faut finir. Mais finir quoi? Sa vie derrière le barreau. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle a des moments d'absence. Parce que le Yitzhara, il est rentré, parce qu'elle a manqué de clarté, parce qu'elle n'a pas su reconnaître où était le Hametz. Et ça vient de quoi, ça? parce qu'elle vit pas le présent. Ve'ayu adevari ma'ele asher anochi mitzavecha ayom.
Une fois, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, Ravichia, j'ai un problème, ma femme, franchement, je la sens plus. Il y a eu de l'amour, il y a eu de la passion, il y a eu de la baba, mais maintenant, je sais pas, on est là comme ça, genre, deux voisins ou deux cousins ou deux camarades de classe. Bonsoir, il n'y a rien à manger, bon, à demain. On fait le quatrième, bah, on habite au cinquième, ouais, laisse tomber. Alors j'ai dit, c'est quoi ton problème? J'ai dit, tu regardes ta femme comme à l'époque, c'est une erreur. Tu dois la regarder tous les jours, comme si c'était le premier jour. Il faut être un petit peu réaliste. Elle a changé après 4 accouchements. Il y a quand même au moins une chute des arguments. Une baisse des valeurs, comme on dit à la bourse. Ouais, d'accord. Je dis, c'est vrai, mais ça fait quand même 10 ans. Donc, elle ne peut pas rester Madonna toute la vie. Il faut que ça évolue. Entre-temps, vous avez créé autre chose. Il m'a dit, c'est difficile. Il m'a dit, je vous trouve un peu utopiste. Je dis, moi, ça fait 26 ans que je le fais, moi. Ça marche très bien. Tu regardes tous les jours comme le premier jour. Tu dis, mais elle n'est pas pareille. Mais je ne compare pas. Je te dis, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Si tu compares, tu dis, elle est plus grosse, elle est plus mince. Toi aussi, je lui dis, tes pectoraux sont devenus des abdominaux. Elle n'a rien dit. Les cheveux, tu veux toujours le même shampoing, Mshif Halam? Oui. Ils sont partis. Elle n'a rien dit. Les performances sportives ne sont plus à la hauteur des prestations exigées. Elle n'a rien dit. Alors pourquoi toi maintenant tu viens avec des exigences? Ça change la vie, on change. Il m'a dit, mais quand même, je vous trouve un petit peu trop théorique et trop... J'ai une autre solution. Si tu veux pas la regarder tous les jours comme si c'était le premier jour, je te donne une autre situation. Vous êtes tous les deux, vous êtes chez le cancérologue. Et le médecin te dit, écoutez, il faut sortir. Il faut, madame, sortez, je vais parler à votre mari. Écoutez, monsieur, on a fait les derniers scanners, les dernières IRM. La métastase sont développées dans le corps entier. Il lui reste un jour. Elle meurt demain. Maintenant, c'est son dernier jour. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas l'engueuler? Pourquoi elle n'a pas déposé le chèque des impôts? Pourquoi elle a fait une rayure sur la voiture? Pourquoi les courgettes, elles sont mal cuites? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais tu vas lui donner tout l'amour. Tu vas tout lui faire. Je dis, c'est simple. Donc, tu dois réfléchir. Ou tu la regardes comme le premier jour, ou tu la regardes comme le dernier jour. C'est comme tu veux. Il m'a dit, mais c'est mortel. Je dis pas pire que tes pompes, regarde même tes pompes, elles sont funèbres. D'accord. Mais c'est quoi? Alors je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est horrible. C'est horrible. Je vous donne un secret. Non, parce que les gens qui ne sont pas habitués à mes cours, ils me disent, mais vous parlez souvent de la mort. Je vous dis un secret. Ça fait longtemps qu'on se connaît, à Créteil. D'accord. Je vous donne un secret. Les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent la vie. Les gens qui acceptent la mort, ils profitent de la vie. Moi, je sentais que mon père n'était pas bien. Tous les jours, je l'appelais, tous les jours, j'allais le voir, c'est normal, parce que je sais que les choses, elles ont une fin. Et j'ai pas le temps. Après, il est mort, tu dis, ah, j'aurais dû lui dire. Même lui, il sort de la tombe, il dit, alors, j'étais là. Ah, ouais, arrête. On a déjà partagé les appartements. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la mort, c'est un rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est pas qu'est-ce que Dieu nous a enlevé, c'est qu'est-ce que Dieu nous a donné. Dieu, il t'a donné ça. Il t'a donné 20 ans, il t'a donné 100 ans, il t'a donné 80 ans, il t'a donné 20 ans, il t'a donné ce qu'il t'a donné. Toi, tu dis, non, mais je regarde ce qu'il m'a enlevé. Mais il ne te l'a pas enlevé. C'est toi qui t'es créé dans la tête que tu avais droit à plus. C'est comme quand tu manges la pomme. Tu dis, pourvu qu'elle ne se finisse pas. Mais elle va se finir, la pomme. Toutes les pommes se terminent. Oui, c'est pas grave. Maintenant, tu dis, moi, j'ai mes souvenirs, j'ai l'amour que j'ai donné, j'ai l'amour que j'ai reçu, et c'est très bien. Et Dieu est grand. Et la preuve, c'est que quand tu te réconcilies, la personne, elle est là. Moi, je vous la vérité, je suis très normal. Vous savez que j'ai soigné des psychiatres. Mais souvent, je parle à mon père. Des fois, je vais rater l'avion, je lui dis, papa, je ne vais pas rater l'avion. Je cours, j'arrive, il dit, monsieur Manchester, ne courez pas, on vous attendait. Tu pries, ton père, il s'occupe de toi. Tu pries pour l'enfant, il s'occupe de toi. Maintenant, c'est un malheur, maintenant, il a des rôles à jouer là-haut. Et toi, tu invoques sa mémoire et t'en fais pas. Ça existe. C'est le contraire. Les plus vivants après qu'avant. Parce qu'avant, il y a le corps, il y a la bêtise, il y a la lourdeur, il y a l'immaturité. En haut, il y a que la neshama. La neshama, il n'y a pas de doute. Elle sait très bien ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Elle sait. Ça va? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, et ça c'est très important, c'est que la Torah a interdit de manger le hametz. Mais elle nous a obligés à manger la matzah. Donc, je rappelle pour les gens qui ont quitté très jeune l'école, qu'une pâte, elle est ou hametz, ou matzah.
Donc pourquoi la Torah nous a interdit le hametz et obligé la matzah? De toute façon, si tu veux manger des céréales, ça peut être que de la matzah, parce que sinon elle est hametz. Vous me suivez? Donc ça veut dire qu'il y a un enseignement dans l'interdit du hametz et il y a un enseignement dans l'obligation de manger la matzah. Maintenant, qu'est-ce que c'est le hametz? Ils disent les chachamim, le hametz c'est l'yetzerara. Le hametz c'est la perte de temps. Le hametz c'est l'orgueil. Elle est gonflée la baguette, ouais. Le hametz c'est l'ambiance. Le hametz c'est la superficialité. Oui, vous comprenez ce que je dis ou non? Restez concentrés en un seul mot, c'est déjà compliqué. Donc, tout ça c'est le hametz. Maintenant la Torah elle a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le hametz. Oui, il faut brûler le hametz. Alors je vous dis la logique. Vous savez qu'il y a une mitzvah de rechercher le hametz et ensuite de brûler le hametz. Maintenant, on fait la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedeshanu Bemizot Avetzivanu Al Biur Hametz. Le soir de l'abdika, ça veut dire jeudi prochain, ouais. On fait jeudi d'après. On fait la bracha Al Biur Hametz. Alors qu'en vérité, on ne va pas faire le Biur Hametz. On ne va pas brûler le hametz. On va chercher le hametz. Maintenant, il y a une halakha qui s'appelle qu'on doit toujours faire la bracha over la asiatan. On doit faire la bracha toujours juste avant de faire la mitzvah. Par exemple, quand vous mettez les tefilines, vous ne serrez pas entièrement le nœud, vous mettez le doigt, et vous faites les anières tefilines, et vous enlevez le doigt, et vous serrez, tout de suite. Parce qu'on doit toujours être proche, la bracha et la mitzvah proche. On fait al-netiyat yadayim, ouais, après qu'on a fait netiyat yadayim. On doit amoti, tout de suite on doit manger le pain. Donc on doit toujours coller l'action avec la bracha. Mais là, on fait la bracha sur la bdikat hametz, oui, sur la biur hametz, alors que le biur, le brûlé, on va le faire que le lendemain. Première question. Deuxième question. On fait la bracha pour brûler le hametz. Et si on ne trouve pas de hametz? Tu as fait une bracha pour rien? C'est comme si tu dis, j'ai un air téfiline, j'ai pas de téfiline. T'es malade. Et si tu trouves pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les 10 petits morceaux. Comme ça, on est sûr qu'on trouve du hametz. Mais c'est un problème. Parce qu'imagine, t'as mis 10 morceaux, t'as cherché partout et t'en as trouvé 15. Ça fait 5 de l'année dernière. Donc tu te dis, alors le pessard de l'année dernière, il n'était pas cachère. C'est compliqué rétroactivement. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit chercher le hametz et ensuite on doit brûler le hametz. Alors pourquoi on fait la bracha sur le biur hametz alors qu'en fait on va chercher le hametz? Le Ran y répond, il dit, parce que le but de la recherche du hametz, c'est de brûler le hametz. Ça va? Le but de l'introspection, c'est de changer. Le but d'être bouleversé, c'est d'évoluer. Le but de parler, c'est d'arranger. Maintenant, si tu cherches le hametz dans ton couple, mais c'est juste pour faire du mal. Si tu commences à faire une psychanalyse, tu vas fouiller les poubelles, on te dit, tiens, ton père était méchant, tiens, ta mère ne t'a pas donné la tendresse. Et quand tu as ouvert toutes les poubelles, tu dis, bon, maintenant, il faut vous réconcilier. Ah non, c'est trop. Et tu laisses tomber, tu arrêtes la thérapie en plein milieu et tu rentres chez toi. Et tu regardes ta mère. Tu regardes ton père. J'ai compris, maintenant, tu regardes le raf. Non. On a le droit de fouiller les poubelles qu'à condition de brûler les poubelles. Sinon, laisse les poubelles comme elles sont. C'est comme les gens qui disent, allez, on va faire le grand ménage. Ils ouvrent, ils trouvent du linge. C'est pas qu'il est froissé. Il est tassé. Il a des placards. Il a fossilisé les chemises. Rien que ferme. Ils commencent, ils mettent ça. On va trier le linge d'hiver, le linge d'été, le hababa, le bada. Après, ils voient tout. Ils disent, j'en peux plus. Tu sais quoi, je suis écœuré. Personne ne m'aide. Alors, il part. Eh bien, tu laisses la maison comme ça. Il valait mieux ne pas ouvrir les placards. L'autre, il va absolument connaître son passé. Le passé de sa famille. Tu sais, des fois, il vaut mieux. Ne fouille pas. C'est bien, t'es équilibré. C'est bien. Ah, mais je veux savoir. Pour construire ou pour détruire? Comme les gens, ils te disent, ah, mais chérie, vous êtes pour le break? C'est quoi le break? Il m'a dit, break Arlec. Il m'a dit, ben, on fait une petite séparation, quelques jours. Je dis, si tu pars pour prendre du recul, pour prendre des forces et pour revenir, c'est bien. Mais si tu pars pour te décharger de la pression que l'autre te met en existant, c'est très rare qu'un type, il a enlevé le sac de 80 kilos et après, il le remet. Parce qu'il sent bien maintenant qu'il l'a enlevé. Donc, si le break n'est pas pour construire, il n'y a pas de break. Il faut travailler. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que le hametz, oui, il est interdit. Oui. Et d'un autre côté, il est nécessaire. Pendant toute l'année, le Hametz, on fait une bracha spéciale à Motsi Lechem Min Haaretz. On fait Borei Min Hamezonot. Après, on fait une bracha Min HaTorah, Berkat Hamazon. Ve'achalta ve'savarta ou berachta. Il y en a qui disent, à la Mechia, c'est Min HaTorah. Le pain, on ne peut pas le laisser traîner par terre, il faut faire le kavod. Shabbat, il faut Lechem Mishneh. Je ne compte pas toute l'année, le Hametz, c'est une mitzvah. Et à Pessah, c'est un interdit. C'est incroyable, non? C'est comme si la Torah t'avait dit, le homard est interdit pendant toute l'année, mais pendant 8 jours, c'est une mitzvah. Tu dis, j'arrive pas. La femme Nida, elle est interdite toute l'année, mais pendant 8 jours, tu peux aller avec elle. Non, je ne sais pas. Ou c'est assuré, ou c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'il veut la Torah? Le Hametz, c'est très grave, mais pendant 8 jours, non, c'est interdit, mais pendant toute l'année, c'est bien. Alors, je vous dis pourquoi. Vous savez comment on fait du pain? On prend de la farine, on prend de l'eau. Maintenant, on met dedans du levain. Mais d'où il vient le levain? Le levain, c'est une ancienne pâte qu'on a pris, on l'a laissée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dégénéré. Elle est devenue Hametz. On prend ce Hametz, on le met dans la nouvelle pâte, il fait lever la pâte. Le Yitzhara, c'est le Hametz. Ça va? Maintenant, le Hametz, c'est comme un moteur. Le moteur, il est nécessaire. Maintenant, si tu l'utilises, il t'emmène en vacances. Si tu l'utilises mal, il t'envoie dans le mur. C'est le même moteur. La jalousie dans un couple. Ouais. Si c'est affectueux, ça met du piquant. Si c'est obsessionnel, ça devient un cauchemar. L'entêtement. Si tu l'utilises, ça s'appelle de la détermination. Si tu ne l'utilises pas, ça s'appelle que tu es keblo. C'est la même qualité. Oui, l'intelligence. Tu la mets au service de ta neshama, ça s'appelle de la chokhma. Tu la mets au service de ton estomac, ça s'appelle du vice. C'est la même chokhma. Ne croyez pas que les gens intelligents, ils ne sont pas vicieux. S'il n'y a pas la shekhina, s'il n'y a pas la kedusha, il va faire des pourritures, besehel ou bechokhma. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le hametz, c'est bon pendant toute l'année, mais c'est interdit pendant 8 jours. Et c'est ça qui est vicieux. Parce que vous savez que hametz, c'est chayav karet, c'est-à-dire celui qui mange 30 grammes de hametz à Pessah, c'est assurbé machéou, mais celui qui transgresse, il est chayav karet. C'est karet, c'est la faute la plus grave. Vous savez ça, non? Karet, c'est retranché. C'est comme quelqu'un qui mange à Kippour, quelqu'un qui transgresse Shabbat en connaissance de cause, quelqu'un qui a des relations sexuelles avec une femme Nida, quelqu'un qui a des relations sexuelles avec sa mère, avec sa sœur, il est Hayav Karet. Pour enlever un karet, il faut 650 jours de jeûne. Tu peux arrêter White Witchers. Un karet, imagine un couple actif depuis une dizaine d'années. Ceux-là, ils en ont pour 7 gilgolim de jeûne. Ils n'ont jamais vieilli, ils sont restés jeunes toute leur vie. D'accord? Mais c'est impossible. Maintenant, je vous dis la vérité, la punition de karet, elle dépend de la connaissance et de la conscience de la gravité de la faute. Ça va? Donc jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas au courant, mais à partir de ce soir, il va falloir aller au mikvé. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très important. C'est que comment la Torah, elle a pu mettre... Attention, karet, c'est aussi pour une jeune fille. Si quelqu'un il a une relation sexuelle avec une jeune fille, c'est Nida. Donc c'est 650 jours de jeûne. Il faut l'envisager. D'un autre côté, allô, d'un autre côté, une nuit d'étude, ça enlève un karet. Une nuit d'étude de la Torah, ça enlève un karet. Regarde la force du limoud de la Torah, la kedusha de la Torah, une nuit d'étude, elle enlève le karet. Alors qu'il faut 650 jours de jeûne. Ça veut dire qu'une nuit d'étude, ça vaut 650. Donc une heure d'étude, ça vaut combien? Tu divises par 24. C'est énorme, non? Ça veut dire qu'on peut avoir l'accapara par la négative, si on est brel, et on peut avoir l'accapara par le positif. On peut effacer les fautes par le bien, et si on se conduit mal, on peut effacer les fautes par le mal. Maintenant, celui qui vit une religion de culpabilité, il va lui falloir la treha, et celui qui vit une religion d'amour, il va faire l'accapara par le positif. C'est ça qu'on dit, celui qui sue pour la mitzvah, celui qui sue, qui court pour la mitzvah, celui qui court pour la tzedaka, c'est des caparotes. Vous savez que c'est écrit dans le Zohar que le Roneg Shabbat, tu fais une salade de plus, tu manges des petits chocolats, tu chantes. Roneg Shabbat, c'est mechaper les averotes, ça efface les fautes. Pourtant, c'est un kiff. Ça efface les fautes. Ça expie les fautes. Le Roneg Shabbat, le kiff du Shabbat. Mais pas le kiff de ton estomac. Faut que tu manges l'irvot Shabbat. Si tu manges pour éclater ton record de calories, c'est pas une mitzvah. Ça fera plus de combustible pour le Gehinam. Ouais. Mais si tu manges les Shem, dire votre Shabbat, ça efface les fautes. Donc ça veut dire quoi? C'est que le Hametz, c'est très mauvais et c'est très bon. La Matzah aussi, c'est très bon. Maintenant, on l'a dit, la Torah, elle a interdit de manger le Hametz. Maintenant, avant de le détruire, tu dois le rechercher. Donc c'est quoi la recherche du Hametz? Tu cherches les petites miettes, tu cherches les bislis, tu cherches les paquets de gâteaux, tu fouilles le fond des cartables. Alors maintenant, qu'est-ce qui t'empêche, en même temps que tu cherches le Hametz, de chercher le Hametz? Tu vas chercher les miettes d'orgueil, les miettes d'entêtement. Tu vas chercher le Hametz qu'il y a dans ton couple. Tu dis combien de bêtises, combien de malentendus, combien de lourdeurs, combien de manque de sincérité, combien de manque de clarté, combien de Hametz. Moi, j'ai vu, j'ai rencontré des centaines de couples. Les trois quarts des cas, je vous dis la vérité. Quand tu enlèves le Yetzara, il n'y a plus rien. Ils adorent. Ah, mais je ne le comprends pas, mais je ne sais pas ce qu'il veut, mais il me prend la tête, de toute façon, elle est folle, et puis à quoi ça sert, et puis elle ne comprend rien, et moi j'ai des soucis, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas. Mais vous faites des enfants ensemble, vous ne pouvez pas parler ensemble. Faites des enfants, comment ils sont nés par Wi-Fi? Vous les avez conçus, non? Donc si vous arrivez à parler, vous ne pouvez pas parler. Si vous arrivez à concevoir, vous ne pouvez pas parler. J'arrive pas. Je ne la comprends pas. Je sais ce qu'elle veut. D'accord. D'accord. Maintenant, dans ce qui t'empêche de lui parler, tu as cherché combien il y a de gava, combien il y a d'orgueil, combien il y a d'amour propre, combien il y a d'entêtement, combien il y a de maroquinerie ou là de tuniserie. Combien? Et ça veut dire quoi? Je dois me rabaisser. Oh, je l'ai trompé, ça va. Alors je dois demander pardon. Et quoi encore? Je sais pas, moi. Je sais plus. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu dois chercher le Hametz. Vous me suivez ou non? Quand tu frottes la marmite, profite pour pleurer pour tes avérotes. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est la même marmite, de toute façon. Tu vas enlever le Hametz. Comprenez ou non? Quand tu es à quatre pattes en dessous, sous le placard, en train de chercher des petites miettes, oui? Quand tu vas là-bas, tu dis, est-ce qu'au grenier, il y en a? C'est quoi le grenier? C'est ma tête. Est-ce que dans ma tête, j'ai du Hametz? Tiens, je vais aller au sous-sol. Oui, je vais aller fouiller dans mes pieds. Est-ce que j'ai fait des avérotes avec mes pieds? Après, je vais voir à l'entresol. L'entresol, c'est l'équateur, c'est la partie la plus chaude de la planète. Est-ce que... Non, c'est intéressant parce que l'équateur, c'est l'endroit le plus chaud de la Terre. Et physiologiquement, le milieu du corps, c'est l'endroit le plus chaud aussi. C'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est comme si l'homme, c'était une planète. Est-ce que c'est Manpower? Manpower, le dessin de Manpower. Vous l'avez regardé, non? C'est Léonard de Vinci, ouais. C'est un homme qui est dans un cercle. Un ami à moi, un rave, il m'a fait remarquer un truc incroyable. Quand tu traces les deux diagonales qui traversent le cercle, le milieu, c'est là. C'est pas là. C'est pas là. C'est là le centre de la personne. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, il faut faire la Brit Mila là-bas. Regarde les Indiens, ici. D'accord? Les piercings, ici. La Torah dit, non, là-bas. C'est pour ça que le Yerushalmi, il dit, celui qui garde cet endroit-là, c'est mon serviteur. Hachem, il a dit, celui qui maîtrise cet endroit-là. C'est ça, Shmirat HaBrit. Tu vas me dire, mais c'est pas le centre du monde. C'est la tête. Eh bien, bizarrement, les gens qui vont pas bien là, ils vont pas bien là. Et les gens qui vont pas bien là, ils vont pas bien là. Et quand ta femme, elle est pas bien là, elle est pas bien là. Et ton mari, quand il est pas bien là, il est pas bien là. Bizarre, non? Super, je suis content que tu commences à comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai parlé ça, mais sûrement que vous deviez l'entendre. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est pas dans le plan. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que maintenant il nous reste deux choses à régler, et après je vous laisse tranquille, parce que là ça fait déjà 1h34 que vous supportez, je sais pas comment vous faites. Lainara, vous avez de la santé, mais moi j'ai un avion demain, donc faut avoir pitié. Donc je vous donne la clé. Pourquoi c'est une mitzvah de manger la matzah? Vous savez que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. La matzah, c'est une mitzvah. Maintenant, il y a une mitzvah de manger la matzah. Mais la matzah, c'est la mitzvah. Donc la mitzvah, c'est de manger la mitzvah. Maintenant, imagine, la Torah aurait dit. Ukshartem otam leot al yedechem ve ayu le totafot ben enechem. On parle de quoi? Des téfilines. Imagine, la Torah a dit. Ukshartem otam leot al yedechem ve ayu tafot ben enechem ve ahaltem otam. Si la Torah nous avait demandé de manger les téfilines, chaque matin, tu feras cuire les téfilines et tu les mangeras. Selon les minagines, en tagine, en pkaïla, en... Tu aurais mangé les téfilines ? Tu aurais mangé les téfilines.
Imagine, la Torah, elle aurait dit, Shivat yamim tishvu basukot, ou bayom hachemini, ou bayom hachemini, tohlu suka.
Si la Torah avait demandé de manger la souka à la fin de Soukot, imagine, tu dis aux enfants, bon, cette année, on va la faire un peu petite parce que l'année dernière, c'était pas évident. Surtout, le scar, ça m'a laissé des brûlures. Ouais.
Mais si la Torah nous avait demandé de manger la souka, on aurait mangé la souka, oui.
Si la Torah avait dit, chaque femme mariée à la fin des Shivra Nekiim ira au mikvé et après s'être trempée, boira l'eau du mikvé. Je dis bien, je vais mourir. Non, vous en faites pas. On aurait pris des bassins hyper propres, on aurait lavé la femme 19 fois au karcher, on aurait mis de l'eau d'évian avec, selon les minagim, de la grenadine ou de la citronade. Mais tu bois l'eau. Le mikvé, c'est pour purifier l'extérieur, et l'eau, c'est pour purifier l'intérieur. Tout le lachonara que tu as fait sur ta belle-sœur, il faut purifier l'intérieur. Imagine, il faut boire maintenant 400 litres d'eau. Allez, madame Benichou, il reste 3 verres, il y a votre mari qui attend. On y va.
Je vais mourir.
Allez, avec du gaz, avec une paille. Je vais mourir. Et on l'aurait bu.
On l'aurait bu, oui. Dites la vérité, on l'aurait bu, non? Non, l'autre, elle s'imagine, elle voit avec le verre.
Et bien, la Torah ne nous a pas demandé de manger les téfilines. Elle ne nous a pas demandé de manger la souka. Elle ne nous a pas demandé de boire l'eau du mikvé. Mais elle nous a demandé de manger la matza.
Pourquoi? Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben, c'est normal, c'est de la nourriture.
Franchement, si un jour vous pensez que je suis assez brel pour poser des questions de brel, vous me le dites, je me fais appeler Jacques. D'accord?
Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est quoi l'idée? La question, elle n'est pas débile. D'abord, la question, elle est posée par des chachamim.
Donc pourquoi il y a une mitzvah de manger la matzah? On aurait très bien... Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Donc on aurait très bien pu imaginer que la Torah, elle aurait demandé qu'on prenne une matzah, qu'on fabrique la matzah et qu'on la pose sur la table. On n'a pas besoin de la manger, comme les téfilines, tu ne les manges pas. On aurait posé la matzah sur la table, on lui aurait donné la nationalité américaine, puisque c'est matzah Joe, d'accord? Et ensuite, on aurait mangé le maror, et c'était facile. Pourquoi la Torah, elle a voulu qu'on mange la matzah? Écoutez bien. C'est quoi manger? C'est quoi manger? Les gens, ils croient que manger, c'est déplacer dans l'espace, d'un espace ouvert qui s'appelle la salle à manger à un espace confiné qu'on appelle l'estomac. Non, pas du tout. C'est quoi manger? Manger, c'est ingérer. D'accord? Manger, c'est absorber. Manger, c'est digérer. Maintenant, imagine, on a mis un traceur chimique à l'intérieur de la matzah. Et la matzah, elle est fluo. Et quand tu manges le petit bout de matzah, tu manges la matzah, le lendemain, tu te lèves, tu as le bout des ongles un peu jaune fluo. Tu dis, ah tiens, ça c'est un morceau de matzah. Tiens, un bout de peau ici, tiens, c'est un peu fluo, c'est de la matzah. Tiens, un cheveu fluo, tu dis ça, c'est de la matzah. Ça va? Comme si oui ou non? Maintenant, imagine quelqu'un, il a mangé tellement de matzot, il est devenu entièrement fluo. Vous me suivez toujours? Maintenant, c'est marqué Ushmartem et ta matzot. Le mot matzot, il s'écrit exactement avec le même orthographe que le mot mitzvot. Mitzvot, ça s'écrit même tzadik vavtav. Et matzot, ça s'écrit même tzadik vavtav. Donc les chachamim, ils se sont permis une espèce de poésie. Ils ont dit, c'est marqué Ushmartem et ta matzot, al tikre matzot et la mitzvot, mitzvah abal yadecha tahmitsena. Une mitzvah qui se présente devant toi ne la rend pas hametz. Je comprends pas. Attends. Le passage qui parle des matzot. Toi, tu viens, tu dis, ouais, mais c'est, en fait, on parle des mitzvot. Après, tu dis, dans les matzot, il y a du hametz. Alors tu dis, alors aussi, les mitzvot, elles ne doivent pas devenir hametz. Je comprends plus rien. Moi. Tu mélanges tout. Matzot, mitzvot, c'est comment ça marche? Alors je vous dis le secret, et après, je vous laisse tranquille. C'est quoi une mitzvah?
Ben, j'ai dit, mais une mitzvah, ben, écoutez, c'est une mitzvah, c'est un commandement de Dieu. Dieu a donné 613 mitzvot, et en tant que juif, nous sommes assujettis au commandement de Dieu d'accomplir les mitzvot. C'est bien. On sent que le catéchisme a fait de l'effet chez toi. Mais, si tu vas un petit peu plus loin, c'est quoi une mitzvah? En fait, une mitzvah, écoutez bien, c'est un acte du quotidien qu'on a optimisé à un niveau spirituel optimal. C'est une définition. Vous pouvez prendre des notes, ça ne me dérange pas. Vous avez compris ou non? Par exemple, tu travailles. C'est un acte du quotidien. Maintenant, tu travailles honnêtement. Donc, tu as optimisé ton acte quotidien de travailler.
Maintenant, tu travailles honnêtement et pour le bonheur de ta famille. Donc maintenant, tu fais un acte quotidien qui est optimisé et en plus qui a un sens parce que tu ne fais pas pour rien. Tu ne fais pas pour l'argent, tu ne fais pas pour le cavote, tu le fais pour ta famille. Maintenant, tu travailles honnêtement pour ta famille et selon la halakha. D'accord ? Tu regardes, ça c'est du gazelle, ça c'est moutarde, ça c'est assour, ça c'est du ribbit, c'est trop cher, ça c'est pas assez cher, ça t'as trompé sur la marchandise, ça t'as pas trompé. Donc tu vas accomplir toutes les halakhot du business. Maintenant, au moment où tu travailles, si tu accomplis toutes les halakhot du business, en fin de compte, t'es pas en train de travailler, t'es en train de mettre les téfilines. Tu veux ou non ? Donc travailler maintenant, c'est un acte quotidien que tu as optimisé à son niveau optimal qui s'appelle la mitzvah. Donc c'est quoi la mitzvah ? C'est l'optimisation maximum d'un acte quotidien. Tu vas avec ta femme. Ben, c'est un besoin, comme tous les animaux, c'est normal. Oui. Mais si tu dis, moi je cherche la personne de ma femme, je ne cherche pas le corps de ma femme. Maintenant je me cherche à me relier à elle. Maintenant je veux construire avec son intériorité. Maintenant je veux l'apprécier pour ce qu'elle est, pas parce que je vois. Maintenant je veux que cet acte ce soit un acte d'échange, un acte d'amour, un acte de construction, pas un acte de consommation. Maintenant je sais que la Shekhina elle est dans la chambre. Donc cet acte-là, qui est un acte d'animal, il est devenu une mitzvah. Tu manges, c'est de la bouffe. Tu dis, écoute, je vais bouffer. Non, je ne vais pas bouffer. Je vais prendre des forces. Je vais chercher le positif dans le manger. Je vais trier, je vais m'enrichir pour avoir la force de faire des choses positives. La preuve, c'est que quand tu as la rama, tu n'as plus faim. Quand tu as la joie, tu as faim. Ouais, c'est bizarre, non? Donc tu vois bien que le moral et la nourriture, ça va ensemble. Maintenant, la nourriture, ce n'est pas que de la bouffe. Par exemple, des fois, on dit, tu sais, bon, j'ai eu un gros problème. Tu dis, ben, il va falloir te l'avaler. Comment ça s'est passé pour le redoublement? Eh bien, je l'ai encore en travers de la gorge. Ça m'a fait des brûlures. Je comprends pas, tu parles de la bouffe. Non, je parle de la vie. Une fois, une femme, elle est venue, m'a dit. J'ai dit, écoutez, madame, c'est le caractère, c'est votre mari. Elle m'a dit, alors vous voulez que j'avale des couleuvres? Vous voulez me faire avaler une couleuvre? Je fais, non, madame, je vais vous faire avaler un poteau. Ouard le poteau, comme ça. C'est comme ça, la vie. Des fois, il y a des bonheurs, et des fois, il y a des moins bonheurs. C'est comme ça. Et les gens disent non. Moi, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas, ça va pas. C'est impossible, à Bataille. Je vais vous dire pire encore. J'ai pris le bateau. C'est bizarre, le bateau. Vous savez, dans le bateau, il y a le haut de la vague et le bas de la vague. Le haut de la vague et le bas de la vague. Maintenant, il y a un mec qui a payé 4000 euros une semaine, une croisière Costa. Au hasard. Hein. Il a payé 4000 euros, il a pris la suite présidentielle de folie. Manque de peau, on part de la côte, ça bouge. Et le suisse, il se fait vomir. Il vomit dans l'escalier, il vomit dans la chambre, il vomit. Comment ? Il cherche le capitaine. Il trouve le capitaine tranquille, à la barre, avec le bateau qui fait... Et lui, il est tranquille. Il a un café noir, une bière, deux raisons de vomir et un cigare. Il est bien. Et l'autre, il est en train de vomir. Et lui, il dit, mais capitaine ! Je dis, oui, monsieur. Que puis-je pour vous ? J'ai payé 4000 euros. C'est pas pour vomir pendant une semaine. Alors vous me réglez ça tout de suite. Monsieur, je peux arranger le service. Je peux remettre en cause le travail. Je peux améliorer le menu. Mais je peux pas calmer la mer. C'est ça la mer. La mer, c'est la mer. Quand on est dans la mer, c'est la mer. Ah, pourquoi là? Bon, après il se calme. Il dit, mais un truc, je comprends pas. Comment ça se fait que vous vomissez pas? Léha, ouais. Il dit, je vais vous expliquer. Vous voyez le bateau, il est sur la mer. Maintenant, la mer, il y a des hauts et des bas. Il y a le haut de la vague et le bas de la vague. Maintenant, sur la mer, il y a le bateau. Le bateau, il suit la mer. Le bateau n'a pas le mal de mer. Et moi, je suis le bateau. Par contre, si vous refusez le mouvement du bateau, vous refusez le mouvement de la mer, vous refusez la vie, donc vous êtes en décalage par rapport à la vie. Quand on est décalé par rapport à la vie, ça donne la nausée. La nausée, ça fait vomir. C'est comme l'ascenseur. Quand il monte, et ton corps, il n'est pas... Et quand il descend... Mais si toi, tu truques, ouais, tu suis. Et c'est toute la vie, c'est comme ça. Il faut suivre le mouvement. Tu prends le mouvement. Il fait chaud. Il fait froid. Il y a des gens, non. Il pleut. Des fois, il pleut. Des fois, par exemple, tu vas pour sortir. Ouais, t'as fait ta mise en pli pendant 4h30. Ouais, t'as fait un brushing de 5 hommes. tu as pris ton dernier tailleur magnifique en lin Calvin Hababa, tu as mis des talonnettes en nubuck de Bahluk à 700 euros, et tu sors, il pleut. Et tu dis, oh, il pleut ! Oh, il pleut ! Bah oui, il pleut. Non, mais il pleut ! Non, mais te rends compte, 150 euros de brushing, il pleut ! Bah, il pleut. Mais les chaussures en nubuck, il pleut. Non, le buck, il pleut. Ouais. Et mon tailleur, Calvin Klein ou Kukai ou Lachaloy, je sais pas. Tu te rends compte, c'est du lin qui vient de Zambie ou le Zambibi. Comment il va mourir, il va se friper, il est mort. Il pleut. Alors tu mets, je sais pas moi, tu mets un sac en plastique, ou là tu mets un parapluie, ou tu mets. Et genre comme ça, il dit, ben non. Non, pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut? C'est pareil, le business, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Un enfant, tu dis cet enfant-là, si Dieu veut, le gant de Vilna. Bon, il est plus proche de Jerry Lewis. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est compliqué, non? Moi, je suis convoqué à l'école des fois. Il me dit, écoutez, votre fils fait le clown. Je dis, écoutez, c'est génétique. Qu'est-ce que je fasse? Ah, mais vous savez, ça met le balagan dans la classe. Bon, je peux essayer de le maîtriser un peu, mais enfin, on ne sait pas, il peut en faire une carrière. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en vérité, elle doit accepter la réalité qu'Hachem lui propose. On appelle ça, en français, la émouna. Une fois, une femme, elle est venue comme ça. Elle m'a dit, écoutez, mon mari, je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus. Il est têtu, il est bête, il est lourd, il est marocain. Je ne sais pas, une insulte. Non, ça va. Ouais. Ou tunisien, ou algérien. J'ai écouté madame. Elle me dit, j'ai tout essayé. C'est pas la peine de me dire. Et j'ai essayé les sentiments, et la gentillesse, et la violence, et les nerfs, et les menaces. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Alors, c'est pas la peine de me faire du moussard ou de me dire, voilà, parce que... Non, il n'y a rien qui marche. Je dis, il y a une chose que vous n'avez pas essayé. Elle me dit, quoi? Je dis, vous n'avez pas essayé de l'aimer tel qu'il est. Elle m'a dit, vous voulez que je meure ou quoi? Elle m'a dit, mes ambitions et mon espoir de le voir changer et qu'il devienne comme mon beau-frère, ou là comme mon frère, ou si Dieu veut, comme mon père. Je dis, madame, essayez. Elle dit, qu'est-ce que vous risquez? Des fois, je dis ça à la femme pour le mari, ou la mari pour la femme. Je dis, madame, essayez de l'aimer comme vous. Des fois, je dis à des parents, je dis, votre enfant, aimez-le tel qu'il est. Mais il m'a déçu. Il t'a déçu par rapport à ce que tu aurais voulu qu'il soit, mais par rapport à ce qu'il est. Alors, c'est très dur. Elle me dit, bon, c'est parce que vous êtes rabbin et. Alors elle prend sur elle. Écoutez bien cette histoire, elle est vraie. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Quand je mange, je lève la main. Le contraire de vous est le tribunal. Donc, je lui dis, elle vient 3 semaines après. Je dis alors, elle me dit, bah, écoutez, c'est incroyable. Elle me dit, c'est incroyable. Je dis quoi? Je dis, bah, j'ai fait ce qu'on vous avait dit. C'est pas juste de genre, bon, bah, je vais l'aimer. Non, tu prends une feuille, tu marques toutes ses qualités. Après chaque jour, tu essayes de voir une nouvelle facette positive de la personne. Jusqu'à ce que tu vas l'aimer tel qu'il est. Ça va? Super. Elle me dit alors. Et je dis, bah, ça y est, tout est bien, je le vois super et tout. Je suis contente, il est magnifique, extraordinaire, c'est un diamant. Chaque jour, je dévoile une nouvelle facette. Ah, t'extra. Je dis, alors, c'est quoi le problème? Elle me dit, bah, j'ai un problème. Je dis, quoi? Elle me dit, c'est que maintenant, il a changé. Pendant 17 ans, tu l'as saoulé pour qu'il change, il n'a pas changé. Et quand tu as accepté comme il est, il a changé. T'as folie, hein? Oh, ça laisse de l'espoir de notre côté. Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est pareil pour la femme, hein? C'est pareil pour l'enfant. Toi, tu es comme ça. Sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça. Je te dis, bah, il n'est pas comme ça. Il n'est pas. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que Esav, il est devenu ce qu'il est devenu parce que ses parents l'ont éduqué comme Yaakov. Lui, c'est un Yaakov, lui, c'est un Esav. Lui, c'est un type qui peut s'asseoir 8 heures par jour. Lui, c'est un type qui a besoin de faire du sport. Lui, il est manuel. Lui, il est intellectuel. Non, 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 non. Notre tradition, ça sera toujours la même. Il faut s'adapter. Hanor, Hanar, Alpi, Darka. Il faut la Darka. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on mange la matzah. Maintenant, on dit, c'est quoi la matzah? C'est la mitzvah. C'est quoi manger la mitzvah? C'est ingérer, intégrer la mitzvah. Maintenant, quand quelqu'un il mange la matzah, pas seulement qu'il fait la mitzvah, vous comprenez ou non? Parce qu'il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens qui ne font pas les mitzvot, bon, qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les mains. Il y a des gens qui font les mitzvot, mais qui les font sans s'investir, qui les font avec des incohérences, qui les font sans émotion, sans bouleversement. On appelle ça des traditionalistes. Et après, il y a des religieux. C'est quoi un religieux ? C'est quelqu'un qui fait une mitzvah et qui évolue avec la mitzvah. Maintenant, il y a beaucoup de religieux qui sont traditionnalistes. Vous me suivez ou non ? Il y a beaucoup de gens qui mettent les téphilines, mais bon. Ils font le berkat Amazon, mais ils rangent la table en même temps. Ça, t'as pas fait le berkat Amazon, là. Il y en a, ils mettent les téphilines, tous les matins, mais ils vérifient les emails en même temps. T'as pas mis les téphilines. Il fait la Hamida. Mais il suit l'émission. Ça fait la mitzvah. Il va avec sa femme, mais il manque de motivation. Il pense à la voisine ou la belle-sœur. Il a la tête ailleurs. C'est un syndrome très connu chez Louis XVI. Donc c'est quoi l'idée, ouais ? C'est que quand tu mets les téphilines, tu mets les téphilines. Quand tu manges, tu manges. Moi, des fois, c'est très dur pour moi. Je vais à Marseille ou à Lyon ou à Nice ou à Milan. Et il y a quelqu'un qui dit, il faut que je vous parle. Je dis, écoutez, je viens d'arriver. J'ai 10 minutes pour manger. Je dis, mais après, je ne pourrai pas rester après la conférence. Là, je vais manger. Je dis, mais je dois vous parler. Mais vous avez un problème. Elle me dit, oui, j'ai un problème. Donc, vous allez me parler de la Ramma. Elle me dit, oui. Je dis, après, moi, je vais rentrer en cours. Donc, j'ai deux problèmes. Premièrement, c'est que la Ramma que vous allez me donner, je vais la mettre en cours. Deuxièmement, la Ramma que vous allez me donner, c'est la sauce que je vais mettre dans le manger. C'est-à-dire que je vais manger votre Ramma. Elle me dit, non, mais ça me dérange pas. Je peux parler pendant que vous mangez. Non, mais c'est moi qui la dérange. C'est pas vous. Toi, j'ai 10 minutes, je vais manger. Maintenant, je vais manger. Oh, mais c'est pas important la bouffe. Je vais manger. Là, je vais rentrer pour 3 heures. 3 heures d'énergie, 3 heures de force, 3 heures d'amour, 3 heures de chorma. C'est très dur. C'est dur. Vous croyez que c'est simple ? Moi, je suis sûr. Non, derrière, ouais. C'est beaucoup d'énergie. Alors, laissez-moi mes 10 minutes à moi. Après, toute la nuit. Vous voulez parler toute la nuit des malaises existentiels de votre mari qui sur 14 générations ? On va parler. Mais après, mais maintenant, je peux pas. J'ai 10 minutes. Maintenant, je dors. Maintenant, je suis avec mes enfants. Il est 5 heures. J'ai appelé avant 17 heures. Rav, il est 17h15. Il faut appeler avant 17 heures. À 17 heures, je suis avec les enfants. Ah, mais c'est important. Demain, 17 heures. Mais vous prenez un peu les choses à la légère. Je dis non, je prends mes enfants très importants. Maintenant, vous faut attendre 24 heures. Il me dit, et si 24 heures, c'est trop tard ? Je dis, écoutez, ça fait 15 ans que vous faites des lourdeurs. C'est pas 24 heures qui va changer grand-chose. C'est les priorités de la vie. Donc c'est pas grave. Ouais. Donc c'est quoi l'idée ? La Torah a demandé qu'on mange la matzah. C'est-à-dire qu'on devienne ce qu'on mange. C'est quoi devenir ? Ça veut dire que tu sens que c'est à l'intérieur de toi. Là, vous avez écouté un cours. Je suis très content pour vous. Que ce cours soit dédié, Bezrat Hashem, Leilou Nishmatam, de tous les tzadikim qu'on a cités. Maintenant, je vous dis la vérité. Ça, c'est 2%. Les 98%, c'est qu'est-ce qui va se passer dans vous ? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez sortir ? Qu'est-ce que vous allez prendre sur vous ? Maintenant, aujourd'hui, il s'est passé des choses horribles. D'accord ? À Toulouse, il s'est passé des choses horribles. Alors, cette femme qui a vu sa famille brûler devant elle, c'est des choses horribles. Maintenant, Hachem, il envoie des choses horribles. Le principal, c'est pas de s'époustoufler de l'horreur. C'est de réagir de manière mature. Vous comprenez ou non ? Si je vois ma femme qui pleure, je dis pas « elle est dépressive », je dis « on a un problème à régler tous les deux ». Si je vois que mon fils y vole, je dis pas « il est comme sa mère ». Je dis « ça veut dire qu'il a un problème de confiance en lui ». Je cherche à régler l'histoire. Donc nous, en tant que Ram Israël, on doit réfléchir « est-ce que ces événements-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ?» Parce que je vous explique le problème. C'est que moins on comprend, mieux Dieu il explique. Je sais pas si vous me suivez. Et la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, si on est rfif, on clique, on a compris, c'est bon, j'ai compris. L'autre jour, j'ai fait un cours à ici les Moulineaux, et une femme comme ça, c'était le mardi matin, c'était le lendemain. Elle m'a dit, je comprends pas, Rav Metchetrit, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Dieu, il tue des enfants ? Est-ce que... J'ai dit, attends. Je dis, madame, on parle clair ? Elle me dit, oui, vous pouvez parler. Ça fait combien de temps que vous venez ? Elle me dit, ça fait un an que je viens à votre cours. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Oui. Vous avez dépassé le stade de la culture ? Elle me dit, bien sûr. Je dis, pourquoi vous n'avez pas la tête couverte ? Elle me dit, vous m'agressez ? Je ne vous agresse pas. Je vous agresse. Je pose une question. Le pire maintenant, qu'est-ce qu'elle est venue ? Elle est venue me voir. Elle m'a dit, vous savez, vous m'avez demandé ça. Je vous en veux pas. Parce que moi, je lui dis, je vais parler avec mon cœur, comme si ma sœur ou ma fille. Je lui dis, mais vous êtes choqué de ça et vous ne vous remettez pas en cause. Donc à quoi ça sert d'être choqué? Comme l'égoïme. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ils habitaient en face d'Auschwitz. Ils disaient, oh là là, c'est horrible ce qui s'est passé. Mais tous les jours, ils voyaient, ils disaient rien. Donc si tu veux faire comme un goy, tu vas te remuer. Si tu veux faire comme un juif, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose. Je dis, maintenant, toi, tu réfléchis. Tu vas te couvrir la tête le Shabbat, tu vas te couvrir la tête une fois de temps en temps. Elle me dit, mais ce qui est incroyable, c'est pourquoi vous ne m'avez pas dit Shabbat? Pourquoi vous ne m'avez pas dit Kashrout? Pourquoi vous ne m'avez pas dit Nida? Elle me dit, ce qui m'a tué, c'est que ma fille, ça fait un an qu'elle me dit, maman, couvre-toi la tête. Et vous m'avez demandé ça maintenant. Non, moi, j'ai rien fait, moi, je ne suis pas prophète, je suis rien du tout. C'est seulement pour vous dire qu'on a des événements, on voit des choses, et chacun, il doit réfléchir lui. Moi, je ne demande rien, je ne vous pose rien. Moi, personnellement, j'augmente mon étude, j'essaie de mettre plus de cœur dans les conférences, j'essaie de rajouter encore, bien que c'est difficile de faire plus de 200 conférences par an, c'est limite, ouais. Mais j'essaie quand même de faire, ouais. Chacun y fait à son niveau. Mais si on est là juste pour s'époustoufler, dire « Oh, c'est horrible, te rends compte qu'il a couru derrière elle pour lui tirer dessus ?» C'est vrai, c'est vrai. Et toi, ça fait 22 ans que tu sais qu'il faut aller au mikvé. Alors, le Yitzhara, jusqu'à quand il va te courir après? Chacun y sait. Oui, vous devez vous séparer. Ne vous touchez pas. Ah, mais on n'est pas à ce niveau. Vous vous séparez. C'est l'anida, c'est tout, c'est pas grave. Et tu vas dire, oui, mais c'est dur, mon mari, j'ai peur qu'après, il va avoir des idées. Mais non, parce que vous allez finir physiquement, mais vous allez augmenter psychologiquement. On va plus parler, on va plus échanger, on va apprendre à aimer autre chose que le physique. Il vaut mieux, parce que je vous dis la vérité, le physique, il va changer. Donc il vaut mieux, pendant qu'il y a le physique, développer autre chose. Comme ça, quand le physique n'est plus là, entre-temps, on a créé autre chose. Mais s'il n'y a que le physique, et bon, qu'est-ce que tu vas faire? Du Viagra? Du silicone? Qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'au cercueil, tu vas encore truquer. Donc c'est le contraire. C'est que tu as profité de ça. C'est pareil. L'enfant, il était bête, il était petit, il ne comprenait rien. Tu lui as informé, tu lui as mis. Moi, les gens, je suis découragé. Je dis à l'enfant, c'est comme un ordinateur. Installe les logiciels. Tu ne sais pas comment il va les utiliser. Mais maintenant qu'il a 16 ans, 17 ans, prends-le avec toi, emmène-le au travail, emmène-le en vacances, parle avec lui à la synagogue, explique-lui, raconte-lui ta vie. Mais fais ce lien, fais ce travail, maintenant, il faut le faire maintenant. Ah mais ça sert à rien, de toute façon il ne comprend rien, de toute façon il est brêle, de toute façon il est bête, de toute façon il est entêté, de toute façon c'est un rachat, de toute façon il est pourri. C'est dommage. C'est un yetzerara, oui, de ne pas communiquer. C'est un yetzerara d'être bête, c'est un yetzerara de ne pas évoluer, c'est un yetzerara de ne pas grandir. Alors tu prends sur toi, tu as compris. Maintenant Dieu pour l'instant il fait de l'effervescence, vous comprenez ou non? Il fait des chocs, waouh. Et c'est beau, j'ai dit tout à l'heure. Moi, des goïms dans la rue, ils m'attrapent. Ils me disent, j'étais dans le métro l'autre jour, je prends rarement le métro, j'ai pris le métro, il y avait un arabe à côté de moi, bien habillé. Il s'est levé comme ça, il m'a dit, monsieur, je voulais vous dire que nous sommes solidaires, que nous sommes choqués, que j'aime les juifs, que j'aime. Je n'ai rien demandé, moi. Après, j'étais à Lyon, j'attends le TGV, il y a une goya qui vient comme ça. Bonjour, monsieur, je suis catholique, pratiquante. Je dis, réfoua chez les mains. Elle me dit, mais je voulais vous dire que nous sommes solidaires avec vous, que nous prions pour Israël, comme ça. Ça veut dire que même le goy, il est bouleversé. Comprenez ou non? Même le goy, il est bouleversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si le goy est bouleversé, alors que le Ben Israël, il est hasdanim, baishanim, on doit être comme des fous. On doit être comme des fous, ouais. Alors je vous dis, qu'on prend cette folie et qu'on la réinjecte dans la Kedusha. Encore tout à l'heure, j'étais en voiture, il y en a, il m'a téléphoné, il a dit, Rabbi Yahya, voilà, quand on est Shomer Shabbat, on mange kasher, on a la tête couverte, on fait la Nida, on étudie régulièrement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il me demande à moi, vous avez compris ou non? C'est bien ou non? Et l'autre déjà, il a déjà calculé pour le mois d'août, elle va partir à Ibiza, c'est elle a organisé le week-end avec son amant. Mais qu'est-ce que tu crois qui va arriver? On est fou, quoi. On est malade. C'est rien. Vous comprenez ou non? C'est rien. Et la police, et ils ont peur. Et si c'est Sarkozy, si c'est Hollande? Et alors, si c'est Hollande, tu vas en faire un fromage? Ça ne changera rien. D'accord? Ça ne changera rien. De toute façon, la France est condamnée. C'est gentil. De toute façon, c'est déjà un miracle qu'on puisse faire un cours de Torah dans un pays musulman. Donc, de toute façon, c'est un miracle. Sans vouloir charrier personne, bien sûr. Mais il ne faut pas pour autant se voiler la face. Donc c'est quoi l'idée, ouais? C'est que Baruch Hashem, on est là, on est à la veille de Pessah. on a de la parnassa, on a des produits cachers, on a de la Torah, on a des rabbanim, on a une famille en bonne santé. Donc chacun, avec ce qu'il a, pas ce qu'il n'a pas, ouais, il faut accepter. C'est pour ça que la fête, elle rentre au coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil, c'est l'ashkia. Et à l'ashkia, il y a shkia. C'est tout ce qu'il y a. C'est vrai. Donc c'est pas la peine, tous les vendredis soirs, de demander à ta femme une salade qu'elle n'a pas fait. Il y a beaucoup, ils se rendent à table comme ça. Il y a 14 salades. Dommage, tu n'as pas fait les betteraves. Il y a les fenouilles. Ah, dommage. L'autre, elle va mourir maintenant. Elle a fait 14 salades, tu lui dis, manque les fenouilles. Tu dois regarder ce qu'il y a. Tu dois dire Khazak pour ce qu'il y a. Tu ne dois pas dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est pareil, ton mari, il t'a emmené en vacances. Pensez bien, il t'a emmené à Malaga. Il a loué une semaine. C'est bien. Elle est belle, la truc. Un bel hôtel et tout ça. Tu vois une toile d'araignée. Jamais avec mon père, il y aurait une toile d'araignée. Pourquoi ton père, il les mangeait, les araignées? Comment il faisait? Pourquoi tu vois le mal? Regarde-le bien. Il est souriant, il est sympathique, il est proche de toi. Il a payé 22 000 euros la semaine et toi, tu tombes nida. Il n'a rien dit. Il aurait pu dire, je vais mourir maintenant. Ouais. Donc ça veut dire quoi, Rabotaï? On a tous des gens, on a des maris extraordinaires, on a des femmes extraordinaires, on a un peuple extraordinaire, on a un Dieu extraordinaire, on a une Torah extraordinaire. Alors il ne faut pas la rendre ordinaire. Ça va? Voilà. Donc vous attachez beaucoup de joie, beaucoup de santé pour vous tous. Je m'excuse, j'ai fait... Et que des bonnes nouvelles, vous attachez.